On tient presque notre rythme, mais là, on fait une toute petite entorse, on fait un mois et demi, c'est ça?
Ouais, mais c'est normal, c'est l'été, voilà, on est en vacances aussi. Plus ou moins.
Oui, presque, bientôt. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou encore une limonade bien fraîche et c'est parti pour une série blabla autour des séries et cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et j'étais en train de réfléchir, on n'a pas du cinéma d'auteur, mais c'est vrai qu'on a des cinémas assez différents, enfin, des styles très éclectiques, on va dire.
Ouais, bah, même si dans l'ensemble, c'est quand même des gros films, il y a du cinéma d'auteur, entre guillemets, au sens premier du terme, on va voir dans la liste, mais c'est... si, en vrai, il y en a quelques-uns qui peuvent dans la catégorie cinéma d'auteur, je pense. Mais...
ah ouais? Bon, on va voir ça. Bon, on va commencer par les sorties ciné qu'on a vues, alors j'allais dire ensemble, oui et non, puisqu'il y en a quand même deux qu'on a vues ensemble, et deux qu'on a vues toutes les deux, mais pas ensemble. Et on va commencer par une sortie, alors on a eu de la chance de l'avoir en avant-première, puisque au final, elle ne sortira qu'en septembre. Donc prenez des notes, puisque on vous en reparlera peut-être en septembre à la rigueur. Ce qui est marrant d'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce aujourd'hui en allant au cinéma.
Ah ouais? Mais, ah, c'est marrant.
Ouais, d'avoir vu le film avant d'avoir vu la bande-annonce, c'était drôle. Et il s'agit d'une année difficile.
Oui, et je vois même que c'est prévu, enfin d'après Google, c'est même prévu pour le 18 octobre. 2023,
ah oui, même pas septembre, d'accord.
Donc effectivement, on l'a vu bien en avance grâce à une avant-première en présence des réalisateurs, puisque c'est le prochain film de Nakash et Toledano. Et c'était bien chouette. Bah, déjà d'avoir évidemment les réalisateurs après pour en discuter, ça rajoute toujours quelque chose. Mais le film en lui-même, moi j'ai beaucoup ri. Il y avait bonne ambiance de rire hein, dans la salle, c'était ouais. Un humour où tout le monde était assez réceptif. Et pour raconter le pitch en quelques mots, on suit deux hommes qui ont des problèmes de dette, de surendettement, et qui de fil en aiguille se retrouvent à aider dans une asso façon un peu Extinction Rébellion. Enfin oui, c'est clairement. Enfin c'est dit que c'est Extinction Rébellion, mais oui, c'est...
Ils ont dit qu'ils avaient travaillé, les réalisateurs ont dit qu'ils avaient travaillé avec eux, donc on se doute qu'effectivement...
donc une asso et, voilà, écologiste militante de désobéissance civile, et donc c'est un peu ces deux mondes qui rentrent en contact, je sais pas trop comment dire, enfin qui se découvrent, et enfin surtout voilà, les deux hommes qui sont incarnés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, qui découvrent un peu ce monde-là, et avec un peu de, je sais pas trop comment dire, de
scepticisme,
ouais, c'est ça, c'est le bon mot, je crois. Mais ouais, donc ça traite à la fois voilà du surendettement et du militantisme écologiste radical. Donc c'était chouette comme thème parce que rien que le surendettement, c'est quand même pas quelque chose qui est souvent traité, et là c'est quand même un des cœurs du film, et j'ai trouvé ça assez c'était un côté qui était assez touchant et humain quoi. Enfin derrière l'humour et les situations un peu voilà, un peu décalé, c'était quand même des sujets assez graves, quoi.
Ouais, non, c'est carrément, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vrai que, comme tu dis, c'est des sujets importants et actuels, puisque avec la crise actuellement des personnes en surendettement, il y en a. Hein. Et puis l'écologie, pareil, c'est quand même un sujet assez sensible et assez important de nos jours. Donc, c'est des sujets sérieux, ils ont réussi à faire beaucoup d'humour, mais en respectant, je trouve, quand même ces thèmes-là. C'est pas... Moi, j'avais vraiment peur que ce soit moqué, que ce soit un peu pointé du doigt, caricaturé, etc. Et en fait, pas du tout. Et c'est vrai que c'est très sympa d'avoir mis ces deux ces deux sujets entre guillemets en opposition. Et pour vous donner envie, en fait, moi c'est vraiment la première scène qui m'a marquée. Donc c'est pas vraiment spoilé, mais cette scène du Black Friday où effectivement t'as ces gens qui se ruent dans les magasins, qui font la queue pendant des heures, qui se bousculent, qui s'arrachent les produits. Et on l'a vu. Je sais qu'à Lidl très souvent on voit des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux comme ça quand ils mettent des produits vraiment peu chers. À Carrefour, ça arrive aussi une ou deux fois. Et d'un côté, t'as de la peine pour ces personnes-là, et puis de l'autre, tu te dis, bah, s'ils en sont arrivés à se battre pour certains produits, c'est aussi qu'ils ont des situations pas faciles. Et de l'autre côté, ces écolos extrémistes qui essaient de les empêcher d'acheter en disant non, c'est mal pour la planète, la fast fashion, c'est pas bien, battez-vous contre ça. Et on a l'impression, enfin, on a envie de se dire, bah, les deux côtés... On raison, en fait, et c'est ce qu'ils disaient les réalisateurs, c'est que toi, t'es vraiment au milieu des deux, et de les voir s'affronter et se réconcilier aussi, enfin, c'est un mix de tout, c'est vraiment sympa.
Ouais, non, je suis d'accord, puis, enfin, c'est très bien filmé, quoi, surtout cette première séquence, ça te plonge dans une espèce d'ambiance, on sait pas trop ce qui va se passer, tout ça, et non, bah voilà, c'est toujours... Enfin, j'ai pas tout vu de Nakash Teledano, mais de ce que j'ai vu, j'apprécie beaucoup leur cinéma. Et là, je trouve qu'il y avait vraiment, peut-être même encore plus que le dernier que j'avais vu qui était hors norme. Et encore plus, peut-être, le côté un peu, ouais, cinéma, d'avoir des moments très, visuellement marquants. Il y a plein de scènes qui sont vraiment marquantes. Voilà, bon, on spoil pas dans les zappings, mais, et surtout pour un film qui est pas encore sorti, mais non. J'ai beaucoup apprécié dans avec la séance qu'il y a eu un débat après sur la fin.
Oui.
Sur l'interprétation de la fin. Donc, j'ai hâte qu'ils sortent pour qu'on puisse redébattre à nouveau avec les autres personnes qui l'auront vu.
Non, c'est clair, parce que pour la petite anecdote, j'avais pas compris la fin. Et puis, du coup, quand il y a eu le débat, j'ai fait, ah bon, c'était ça? Donc c'était assez marrant, mais j'ai l'impression que globalement tout le monde avait plutôt compris, enfin avait mis du temps à comprendre, mais avait compris. Et bref, je me suis sentie un petit peu seule, mais on va dire que c'est la fatigue. Mais non, ouais, c'est très sympa. Moi, je vous le conseille fortement en octobre, du coup. Et pour la bande-annonce, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de blagues qui sont retrouvées dans cette bande-annonce. Notamment, bon, je raconte juste une petite scène, hein, mais quand l'écolo Noémie Merland, d'ailleurs, qu'on n'avait pas cité, qui est excellente dans ce rôle, explique que pour Noël, elle a offert à son petit-neveu de la reconnaissance et de l'amour. Et tu as Jonathan Cohen qui regarde et fait... « Oh, ça doit être sympa, les Noëls avec toi, et pas cher. » Et en fait, c'est beaucoup d'humour de ce style. Moi, ça m'a fait penser au sens de la fête de ce duo que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, avec un humour un peu cynique, un peu beaucoup de sarcasme que j'apprécie énormément. Et si vous avez peur d'avoir vu plein de blagues dans la bande-annonce, il y en a encore plein d'autres. Vraiment, tout n'est pas montré, contrairement à certains une comédie française. Donc, ouais, vraiment, allez-y.
Ensuite, à d'autres films qu'on a vus, toutes les deux, et qu'on a aimé toutes les deux, c'est le nouveau Pixar, Élémentaire.
Ouais.
Alors moi, je ne peux pas en dire grand-chose parce que je vous renvoie à l'épisode d'Il est un plus où j'ai donné mon avis. Donc, à part dire que j'ai beaucoup aimé et que je suis contente que, malgré des débuts difficiles, j'ai l'impression que le bouche-à-oreille a fait son chemin et que maintenant, il a un beau petit succès et ça fait plaisir. Donc, je veux te laisser donner ton avis et présenter le film parce que je l'ai déjà fait.
Alors, moi, j'avais pas vu le film quand vous avez enregistré avec Il était un plus encore, donc je vous avais pas encore écouté. Je l'ai vu il y a pas longtemps, donc faut vraiment que je vous écoute maintenant. J'ai toujours pas eu le temps de le faire. Ouais, moi, en fait, ça faisait partie des films que je ne voulais pas aller voir au cinéma parce que Pixar m'a un peu déçu ces derniers temps. Enfin, pas déçu, mais en fait, j'avais l'impression que ça ressemblerait un peu à un Luca et tout, et ça m'emballait pas plus que ça. Même s'il y avait une histoire d'amour hein, qu'on voit dans la bande-annonce. Je trouvais ça assez cliché et pas forcément très captivant. Et c'est grâce à un message de toi qui me spoilait l'intrigue un peu principale. Enfin, c'est pas vraiment l'intrigue principale, mais qui me racontait qu'en fait, il y avait une double lecture, hein, que c'était pas juste une histoire d'amour entre le feu et l'eau, mais qu'il y avait beaucoup de... Bah, il y avait toute une comparaison entre les immigrés, cette ville qui ressemble un peu à New York, enfin la difficulté de s'adapter quand on vient d'ailleurs, etc. Où je me suis dit, ah, bah, ils nous montrent pas ça du tout dans la com, là ça me parle plus. Et effectivement, j'ai adoré, c'est pas révolutionnaire, mais c'est une très belle histoire, ça aborde des thèmes très importants, je trouve, surtout pour les enfants, leur montrer ce genre de film, c'est très bien. Et l'histoire est très touchante, j'ai versé ma petite larme. je suis comme toi très contente que ça marche mieux, qu'il ait eu... Mais c'est le bouche à oreille, hein, comme quoi le bouche à oreille marche très bien. Et ça fait vraiment plaisir et j'espère qu'ils vont faire d'autres Pixar comme ça parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver Pixar.
Ouais, ouais, je suis d'accord. On est vraiment sur du bon Pixar. C'est pas, ça révolutionne pas ce qu'ils font, mais c'est très bien fait. Et quand même, l'animation, ouais, j'avais un peu j'étais un peu perplexe en voyant les bandes annonces. J'étais pas sûre que j'allais accrocher au style. Et en fait, l'animation est très, très belle. Les effets de, sur le feu, sur l'eau, c'est vraiment très, très beau et assez inédit au niveau de ce qu'on peut voir en animation. Donc, voilà, ça, Pixar reste quand même à la pointe sur le volet technique autant que sur les histoires. Donc, pour ça aussi, ça vaut le coup. Ça fait plaisir de revoir un Pixar au cinéma, quoi.
Ouais, carrément.
Enfin, vrai Pixar, parce que c'est vrai qu'il y a eu Buzz, mais bon.
Ouais, ouais.
C'était sympa, mais bon, voilà. Là, j'étais plus dans ce que j'attends à Pixar, quoi, avec Élémentaire.
Le prochain film, on l'a vu toutes les deux, mais on n'en a jamais parlé. C'est ça qui est marrant.
C'est vrai.
Je ne sais absolument pas ce que tu en penses.
Je ne sais pas non plus. Non, non, mais... Ouais, si, je sais ce que j'en pense.
Il s'agit de The Flash, le dernier... film super-héros DC Comics.
Ouais.
Sur Barry Allen, a.k.a. Flash, du coup, avec Ezra Miller. Donc, vas-y, dis-moi ce que tu en as pensé avant que je te donne mon avis.
Alors, ce film, c'est un peu... Bon, il a une histoire compliquée, hein, ce film, parce qu'il a mis des années, des années et des années à se produire et à sortir. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes divers et variés de production.
Tu sais que quand j'ai fait ma chronique post-popcorn, j'ai regardé parce que je savais que ça m'avait mis du temps et je voulais savoir depuis combien de temps. Mais en fait, c'est pire que ce que je pensais parce que ils en avaient parlé dans les années 80 de faire un film sur The Flash. Dans les années 80, c'était dit, il faut qu'on fasse un film The Flash. Et à chaque fois, ils repoussaient jusqu'à début 2000 où là, ils se sont dit, ok, vas-y, on cherche un réalisateur. Et comme tu dis, ils se sont succédés, il y a eu une galère. Mais déjà, dans les années 80, ils disaient, vas-y, c'est le super-héros où on veut faire notre prochain Batman, notre prochain Superman. Ils n'ont jamais réussi.
Bah ouais. Donc déjà, le fait qu'ils réussissent à le sortir, c'est déjà pas mal. Après, j'étais perplexe parce que tout le monde s'attendait à un truc nul. Et à cause de tous les problèmes qu'il y avait eu en coulisses et puis des images qu'on avait pu voir. Et en fait, les premiers échos qu'il y avait eu quand c'est sorti aux États-Unis, c'était en mode « C'est génial! Meilleur film de super-héros de tous les temps !» J'étais genre «
J'ai pas compris !»
Et j'étais genre « Du coup, je me suis retrouvée un petit peu de hype, même si, bon, j'ai pas vu les derniers, j'avais pas vu Justice League et tout, donc je savais même pas si j'allais pouvoir réussir vraiment à suivre, enfin, s'il y allait avoir des trucs que j'aurais loupés. Mais bon... Ezra Miller, ça reste malgré voilà les problèmes qu'il a qui est là en ce moment, ça reste quand même une actrice que j'aime bien et du coup j'avais quand même envie de le voir de la voir dans ce rôle donc oui j'essaye de dégenrer, c'est pas facile parce que
je t'admire parce que je
c'est
pense
plus
pas
facile en anglais. Donc je vais switcher entre les deux pronoms parce que les pronoms neutres en français j'arrive pas à toujours bien les placer. Bref.
Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Ezra Miller a fait son coming out non binaire du coup il y a quelques années.
C'est ça. Et bref, pour rester sur Ezra Miller, je trouve que c'est une belle performance. Moi j'ai c'est un des bons points je trouve du film. Mm-mm. Je trouve que c'est que Barry Allen, les deux versions, puisque bon, voilà, là, on est obligé de spoiler un petit... Bon, je pense que tout le monde a vu les bandes annonces,
c'est
déjà annoncé, voilà, mais voilà, on se retrouve avec deux versions du personnage, et je trouve que ce fait d'avoir ces deux versions-là, ça apporte vraiment, enfin, et puis même l'incarnation qu'il apporte, dans les deux, ces deux versions, je trouve que c'est le cœur, enfin, ça reste le cœur émouvant du film et je trouve que ça marche bien. Donc, pour ça, j'étais vraiment satisfaite de ça. L'histoire, elle est assez simple, mais voilà. Enfin, je préfère une histoire assez simple, mais qui se tient que ce qu'on a eu avec Spider-Man No Way Home. Clairement, je préfère ça. Par contre, je suis désolée, mais visuellement, c'est pas possible de faire un film aussi moche, quoi. C'est vraiment pas possible.
Pas toutes les scènes.
Pas toutes les scènes, mais enfin, dès qu'il y a un peu d'ambition, enfin dès qu'il y a des gros effets visuels, c'est quand même. Alors il y a certains, je sais que tu l'avais cité, il y a certains trucs où c'est un choix stylistique, ok. Mais à d'autres moments, non, c'est juste raté. Et c'est moi ça m'a vraiment piqué les yeux à certains moments et surtout à la fin. Donc.
Ah moi c'est surtout au début la scène des bébés.
Oui, aussi.
Et en plus, c'est vraiment, ça arrive au tout début, dans les 10 premières minutes, et je me suis dit, ah ouais, non, mais si c'est ça tout le film, je pars, quoi, c'est pas possible.
Donc voilà mon avis, j'ai pas détesté de bout en bout, j'ai passé plutôt un bon moment, mais voilà, il y a des, visuellement, j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a un peu gâché, ça m'a sorti du film à plusieurs moments, quoi. Et c'est dommage. Mmh. Et je comprends pas le fait de dire que c'est le meilleur film de tous les temps. Non, enfin, il y a rien qui justifie, même l'histoire, même si j'ai trouvé ça que ça se tenait pour une fois sur le multivers. Non, ça... Non.
Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. J'ai pas compris non plus. Après, les Américains, ils ont boudé Babylon, The Fableman, des films que j'ai adorés récemment. Donc je me dis qu'on n'a pas les mêmes goûts. Voilà, faut l'accepter. Ça doit être ça, j'en sais rien. Mais non, c'est pas le meilleur film de super-héros. Moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que c'est parce que je m'attendais à une catastrophe. J'ai été le voir juste parce que j'avais un créneau de libre à Levallois, que je ne savais pas quoi faire, que c'était la fête du cinéma. Je me suis dit, allez, comblons le temps libre. Et du coup, je pense que voilà, je m'attendais tellement à être déçue que j'ai été agréablement surprise. Comme toi, la performance d'Ezra Miller, incroyable. Le scénario qui m'a beaucoup plu parce que je m'étais dit encore du multivers, je commençais à saturer un petit peu et je suis pas forcément toujours, je suis un peu difficile quand il y a
voyages dans le temps. Ouais.
Des voyages dans le temps. C'est vraiment le truc sur lequel je suis très pointilleuse. Et là, bah, ça colle, ça m'a vraiment plu. Mais ouais, pareil, en fait, il y a plusieurs petits défauts. Il y en a un gros, c'est les effets visuels. Pas tout le temps, mais à certains moments où c'est vraiment très moche. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a d'autres où j'ai trouvé ça vraiment bien. Enfin, je vois la scène avec Batman qui était sur sa moto. J'ai trouvé la scène très belle. Il y a une scène où les deux Flash sont dos à dos et partent en courant. Je trouvais que c'était visuellement, au niveau photographique, très réussi aussi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi vous êtes capable de nous faire des belles scènes et des scènes atroces? Alors, je sais pas, peut-être question de budget ou j'en sais rien. Mais ouais, il y a eu ça comme défaut. Et puis il y a eu des moments où c'était vraiment bizarre. C'était c'est rare que je me pose ces questions-là, mais il y a des moments où je me disais, tiens, bah là j'aurais mis cette musique plutôt que ça. Ou là, pourquoi vous avez pas mis de musique? J'aurais mis une musique. Ah, bah là j'aurais pas mis de musique. J'aurais mis un silence justement pour que ce soit bien pesant. Ou ah, là j'aurais pas mis ce dialogue-là. Je l'aurais plutôt fait dire ça pour que c'ait plus d'impact. Et en fait, je me suis rendu compte que sans être réalisatrice du tout, hein, il y avait plein de petits trucs comme ça où je me suis dit, oh, ils auraient pu mieux faire. Et
ouais. Des choix bizarres, ouais.
Voilà, il y a eu quelques petits choix un peu étranges. Mais à moi, ça m'a pas fait sortir du film. J'ai quand même passé un très bon moment. Je trouve ça quand même très divertissant. Et en fait, je pense que si je suis aussi généreuse envers ce film, c'est parce que je l'ai trouvé loin au-dessus des derniers Marvel. À part les Gardiens de la Galaxie. Mais tous les autres Marvel que j'ai vus, ils sont en dessous. Et je me dis, on le descend comme pas possible parce qu'effectivement, les effets visuels, c'est raté, hein. Mais je préfère des effets visuels ratés comme ça et tout le reste qui est bien. Plutôt que Marvel qui nous fait des scénarios catastrophiques, du fanservice à haute dose, des effets visuels qui sont pas beaucoup mieux, hein, parce que Ant-Man, oui. Bon, c'était sympa, mais pas non plus extraordinaire. Donc, je trouve que les critiques ont été un peu dures envers lui, et j'ai l'impression que c'est parce que DC, on est plus dur envers DC, on en attend peut-être plus, hein, c'est peut-être aussi pour ça, que Marvel, bah, c'est peut-être nos lunettes de fans qui font que on a tendance à être plus généreux, plus gentil, ou peut-être parce qu'il y en a plein, donc on passe et on oublie vite. Mais voilà, c'est pour ça, je pense que je suis aussi généreuse et sympa avec ce film, et j'ai passé un très bon moment, moi, devant, en tout cas.
Ouais, non, je suis d'accord aussi sur ce que tu disais là par rapport à DC Marvel, je pense qu'on est plus dur avec DC pour X raisons, mais ouais. Et dernier point positif, quand même, que je voulais mentionner, Supergirl.
Oh, elle
cool.
est géniale! Ouais. Oh, j'aimerais trop qu'on la revoie. Je suis pas convaincue, mais j'aimerais vraiment beaucoup.
Ouais, et c'est un des points forts du film, même si ouais, elle est pas là sur tout le film, mais elle a plusieurs scènes qui sont très 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 chouettes. Donc,
Et un autre point fort, je sais que ça se fait il se fait beaucoup clasher sur les réseaux parce que la scène était visuellement pas très belle, mais moi, mon cœur de fan a adoré tous ces caméos. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais il y a beaucoup de caméos. C'est pas très bien amené, hein, un peu avec les pieds, mais mais moi, je suis fan de Superman depuis toujours. J'ai regardé tous les Superman et tous les Batman depuis toujours. Et du coup, il y a quand même des petits clins d'œil, voilà, qui m'ont fait plaisir.
Ouais, moi, ça m'a mis mal à l'aise, mais parce que c'était vraiment... c'était très très moche et enfin à mon goût et ouais et la manière mais bon je peux pas en dire sans spoiler mais voilà moi j'étais pas convaincue mais
on peut passer au dernier film qu'on a vu ensemble
oui
où on n'est pas du tout d'accord non plus enfin pas du tout non on n'est pas vraiment d'accord il s'agit d'Asteroid City de Wes Anderson est-ce que c'est à lui que tu pensais quand on parlait cinéma d'auteur?
Oui, ouais, ouais. Bah, tu puis une année difficile, c'est aussi un cinéma d'auteur aussi.
Oui, mais, c'est vrai.
Mais oui, Asteroid City, c'est oui, c'est dans cette catégorie-là aussi. Même si, enfin, pareil, là, tu as vu et je vais voir Oppenheimer, c'est du cinéma d'auteur aussi, Christopher Nolan. Mais je sais pas si on peut le.
Oui. En fait, c'est bizarre que cinéma d'auteur, on a envie de se dire, oui, c'est le cinéma qui est un peu inaccessible. Oui. C'est la dernière fois, Thibaut m'a fait voir un film ivoirien, je crois, ou un truc comme ça, où j'ai rien compris du début à la fin. Et on a envie de se dire, c'est ça le cinéma d'auteur, mais c'est vrai que pas forcément, en fait.
C'est plutôt ouais, la catégorie art et essai qui est vraiment oui. Voilà spécifique. Puis après, cinéma d'auteur, c'est juste du cinéma qui est pas du cinéma de grand studio quoi ou du coup enfin pour moi c'est genre le réalisateur enfin c'est le réalisateur et le scénariste enfin le scénariste et le réalisateur qui sont la même personne quoi en gros c'est le réalisateur ouais, qui écrit ouais, son ouais. film mais bon effectivement c'est mais Asteroid ouais je pense que Wes Anderson il rentre quand même dans cette catégorie là et il a en plus son style tellement spécifique et Asteroid ouais. City qui est à fond dedans du coup
ah bah si vous aimez Wes Anderson vous risquez d'aimer Asteroid City si vous n'aimez pas ce style ces personnages très distants très peu causants au final assez froid peu expressif et ce style pastel avec ses plans fixes et ses travelling et tout si vous aimez pas ça c'est sûr n'y allez pas quoi
ouais. Alors moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Et là, pour le coup, on était à fond dedans. Et moi, ça me fait un effet ASMR, en fait, hein, cette esthétique. C'est hyper satisfaisant, quoi. Donc pour ça, j'ai vraiment aimé. Hein, j'ai profité tous les plans, toute la manière dont tout est hyper léché. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, c'était... j'ai failli m'endormir à un moment. Et en fait, mais bon, j'étais fatiguée, je pense aussi. Hein, parce que c'est quand même assez rare que je m'endorme au cinéma. Là, c'était vraiment que. Et puis, c'est ce rythme, c'est l'ASMR. Moi, ça m'endort. Donc, c'est normal. C'est que ça marche. Mais en plus, ça m'a trop fait rire. Parce que, alors, je fais un micro spoil. Mais je me suis endormie. Enfin, j'ai failli m'endormir pile jusqu'à la scène où il y a un truc en lien avec ne vous endormez pas ou je sais plus c'était quoi il y a un truc autour genre une phrase qui répète tout le temps genre ouais, réveillez-vous ouais. ou ne vous endormez pas ou un truc comme ça et du coup c'était pile au moment où j'étais commencé à faire ma sieste du coup j'étais morte de rire parce que bah, j'avais l'impression que le film il parlait alors que je savais plus du tout de quoi on parlait du coup mais non c'était non, après j'ai quand même pas mal rigolé voilà mais c'est juste que j'ai pas été totalement assez prise pour être complètement dedans de bout en bout mais j'ai quand même enfin à chaud voilà j'avais encore le souvenir de m'être presque endormie donc je me suis dit bon c'est que je me suis peut-être un petit peu ennuyée mais là après quelques temps je me dis non franchement j'ai passé c'était cool enfin je me souviens d'avoir rigolé ouais. je me souviens d'avoir apprécié visuellement et voilà quoi.
Ouais, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai eu mis du temps avant de rentrer dedans parce que je comprenais pas trop ce que c'est du. Enfin, c'est des briques. C'est vraiment il y a une scène dans une scène. Enfin, ouais. Si vous allez le voir, vous voyez que le rythme est assez particulier. La construction du film est particulière. Mais après, il y a cette histoire de couleurs et de noir et blanc qui sont là pour un petit peu vous expliquer, vous resituer dans le film. J'ai envie de dire. Mais j'ai eu un peu de mal au début. À comprendre où j'étais, mais une fois que j'étais dedans, moi j'étais complètement happée. Après, je pense aussi que le fait que le film dure 1h30, ça aide. Je pense que s'il avait été plus long, peut-être que j'aurais senti quelques longueurs. Voilà. Après, c'est pas du tout un film contemplatif. Je sais que j'avais lu quelqu'un qui pensait que c'était le cas. Pas du tout. Il y a beaucoup de dialogues, il se passe des choses, il y a de l'action, etc. Après, il y a de l'action à la Wes Anderson. Hein. Faut pas non plus trop en demander. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce cinéma-là. Il y a que The French Dispatch que j'ai pas aimé de Wes Anderson. Tout le reste, j'ai adoré. Et du coup, ça rentre voilà dans les films que j'ai beaucoup beaucoup aimé, même si c'est pas mon préféré.
Donc voilà pour tous les films qu'on a vus toutes les deux. Ensuite, pour parler d'un film que j'ai vu et que tu n'as pas vu, notamment...
La honte, parce qu'en plus, on a décalé l'enregistrement pour que j'ai le temps de le voir.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on a... Donc, on parle de Indiana Jones 5, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même rapport à la saga Indiana Jones toutes les deux. Donc moi, je suis allée le voir quasiment à sa sortie, j'étais vraiment hyper hypée pour aller le voir. Parce que voilà, Indiana Jones, ça fait partie de mes héros d'enfance. Hein, voilà, j'ai pendant des années voulu être archéologue et le premier désir d'être archéologue, ça vient forcément d'Indiana Jones, hein, forcément. mais voilà, du coup, j'étais très contente de retrouver Indy, de retrouver cet univers, et j'ai beaucoup aimé le 5, beaucoup plus que le 4, parce que pour le coup, on revient vraiment à tout ce qu'on aime dans les premiers. Mes préférés, c'est le premier et le troisième, et du coup on retrouve tout ce qui fait un film Indiana Jones, quoi, dans les aventures, dans les enchaînements de séquences dans des endroits différents, les personnages. Il y a des nouveaux personnages que j'ai trouvé très attachants, enfin assez marquants quand même, et visuellement c'est bien, quoi. Il y a juste peut-être quelques petits effets visuels qui sont un petit peu limites. On voit Indiana Jones courir sur le toit d'un train, et autant dans tous les Indiana Jones, normalement, on voit, voilà, on sait que c'est un cascadeur ou que c'est Harrison Ford qui court sur un train. Là, on voit que c'est du numérique, quoi. Et donc, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont un petit peu pas parfaits, on va dire. Par contre, je trouve que la technique de rajeunissement de Harrison Ford dans les séquences, parce qu'il y a toute une séquence dans le passé, j'étais déjà impressionnée dans la bande-annonce, et dans le film, j'étais aussi impressionnée, hein, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et satisfaite, je suis contente que ça s'arrête là aussi, que ce soit une vraie fin, j'ai retrouvé, c'est pas le film de l'année, mais j'ai retrouvé... voilà, un doudou d'enfance, quoi. Donc, ça fait plaisir.
Ouais, moi, je l'avais pas vu quand j'étais plus jeune. J'ai vu le 1 il y a un an. J'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment devant. Le 1, vraiment, ne m'a posé aucun souci. J'ai vu le 3 il y a trois semaines. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu beaucoup plus de soucis. Non, je trouvais qu'effectivement, tu sens que c'est de la vieille génération, et le rôle des femmes dans les Indiana Jones, ouais. C'est là où je me suis dit, il y a quand même un problème, il y a un problème. C'était quand même une autre époque. Et ouais, c'est vrai que j'étais un peu déçue à ce niveau-là. Enfin, vraiment, il y a des scènes qui m'ont mis très très mal à l'aise dans le 3. J'ai beaucoup aimé la relation Sean Connery-Harrison Ford, j'ai trouvé ça génial. J'ai bien aimé l'histoire et tout, c'était sympa, l'action, la musique, tout. Mais c'est vrai que le personnage féminin m'a posé grand grand problème. Donc j'ai eu beaucoup de mal avant de regarder le 2 et le 4, que je n'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Mais ouais, je m'étais dit tant pis.
Le 2, ça va piquer, hein, pour le personnage.
Ouais, pareil. Pareil. Donc bon, on m'a dit qu'au pire, je peux ne pas regarder le 2 et regarder le 4 directement. Mais le 4 n'a pas des super critiques non plus, donc... Ouais. Donc bon, voilà. Du coup, je m'étais dit, c'est pas grave. On m'avait conseillé de voir le 5 sans avoir vu le 2 et le 4. On m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais... j'avais mis dans mon agenda au moins 3 ou 4 fois la séance planifiée, hein. Et à chaque fois, je lisais dans la journée un tweet ou un message sur notre Discord qui disait ouais, c'est sympa, mais sans plus, quoi, c'est pas fou, ou ouais, je me suis quand même un peu ennuyée, j'ai regardé ma montre 2 fois, enfin, du coup, je me suis dit, non, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller m'ennuyer, de m'infliger 2h30 d'un film où je vais me dire, ouais, c'est pas mal, mais pas sans plus. Du coup, j'ai toujours pas été le voir, et je pense que je ne le verrai pas, tant pis, mais je me rattraperai, je regarderai le 2 et le 4 prochainement.
Alors du coup, juste un petit point quand même, il se rattrape un peu au niveau des personnages féminins, heureusement, en 2023. Ouf. Mais donc le personnage de Phoebe Waller-Bridge, qui est un des personnages principaux, du coup, hein, qui fait Elena Shaw, et c'est vraiment elle qui est le moteur de l'intrigue, plus qu'Indiana. Et elle est super. Bon, l'actrice est super, hein, de base, mais son personnage, il est vraiment cool, et loin des loin des clichés qu'on pouvait avoir. C'est pas une demoiselle en détresse, pas du tout. Et elle a une moralité un peu grise, donc ouais, non, elle est super. Et puis, il y a quand même, j'ai pas cité, mais Mads Mikkelsen qui fait un méchant nazi. Et, bah, ça lui va bien, hein, je suis désolée, mais ça lui va bien.
Ah, mais c'est encore des nazis, je crois qu'ils sont... J'ai l'impression qu'Indiana Jones, c'est vraiment c'est la guerre contre les nazis mais c'est tout
ça.
Le temps.
Et là, du coup, ça aborde le fait que bah les nazis, il y a des nazis qui se sont réintégrés un peu dans la société par leur talent. Là, c'est un scientifique quoi qui a été du coup pardonné. Et en fait, ça reste un nazi dans l'âme quoi. Donc c'est
énorme. Non, parce que quand j'ai vu le 3, je disais à Tib, putain, c'est encore des nazis. Si tu me dis que dans le 2, c'est des nazis encore, ils font une fixette ou quoi.
Je et Tib m'a dit, c'est des nazis dans le 2.
Les Américains, voilà, c'est...
Puis c'est, bah c'est aussi l'influence pulp hein, d'Indiana Jones. Et oui. Du coup, c'est des références à des pulps des années 40, quoi. Donc forcément, les méchants, c'est des nazis, forcément.
Ouais, non, mais oui. Mais en fait, je m'attendais que dans 5 films, tu vois, il y ait d'autres...
Non.
Mais c'est pas grave, hein, mais ça m'a
fait... Ça fait partie des choses. Il y a le chapeau, le fouet et les nazis.
Et les nazis. Pas mal.
Et ça fait plaisir de voir Indiana Jones se taper du nazi, hein. Ça fait plaisir, ça fait partie du kiff.
Mais je suis d'accord, hein. Ça peut être quelque chose de très satisfaisant. Bon, moi, le dernier film que j'ai vu au cinéma, je ne l'ai pas vraiment vu au cinéma, parce qu'il est resté littéralement 2 semaines. Il est passé dans quasiment aucun de mes cinémas autour de chez moi, pas à Montreuil, pas au MK2 de Nation. Non, il est passé aux Halles, voilà. Châtelet-les-Halles, c'est vraiment le cinéma où tu peux avoir tous les films. Il passe tous les films. Il est passé, ouais, 2 semaines au Halles seulement. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de le voir. Il n'y avait aucun créneau qui me correspondait. Il s'agit de Love Again, qui est un film avec...
Priyanka Chopra Jonas.
C'est ça ?
Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Hein, mais...
Et Sam Hagen et Céline Dion. Voilà. Donc, c'est vraiment pour Sam... Comment ça se prononce ?
Johan.
Du coup, qui est le héros de Outlander, pour ceux qui ont du mal avec nos accents.
C'est possible.
Et c'est vraiment pour lui que je voulais voir ce film. Et du coup, je l'ai regardé illégalement parce que pas le choix. Il était même pas encore en... Ouais, on pouvait même pas encore l'acheter. Je sais même pas si on pourrait vraiment l'acheter. Mais bon. Je vais aller très vite. J'ai pas du tout aimé. Je n'ai même pas été jusqu'au bout. Donc finalement, heureusement que je l'ai regardé illégalement. Quand je t'ai dit si, je l'ai vu jusqu'au bout, en fait, j'ai regardé sur ma clé USB, je fais en fait non, je me suis vraiment arrêtée avant la fin. Alors ça se trouve, il y a du mieux après, peut-être. En fait, le synopsis pouvait être bien, enfin, partait pas trop mal, ça me faisait penser un peu à PS I Love You, je sais pas si tu l'as déjà vu, qui est une comédie romantique que je trouve magnifique.
Je crois que oui, je l'ai vu celui-là.
Et ça me faisait penser un petit peu à ça, puisque du coup là, alors je sais même plus comment s'appelle l'héroïne, le fait de l'avoir vu... j'arrive même plus à parler, il est trop tard Marjo, voilà, on enregistre trop tard. Sporadiquement, enfin, oui, parce qu'en plus je la regarde en plusieurs petits bouts, enfin, je pense que ça a pas aidé non plus. Bref, donc elle s'appelle Mira, voilà, j'ai live checké. Donc Mira perd son fiancé, alors c'est horrible parce que la scène en plus est censée être triste, mais... Je trouve qu'on n'éprouve pas grand-chose. Enfin, il se fait écraser par une voiture en traversant la route. Et vraiment, enfin, la mort un peu bête, tu vois. Enfin, je trouve pas beaucoup d'émotions. Et donc, elle met beaucoup de temps avant de s'en remettre. Et elle va envoyer des textos à son portable. Enfin, comme si elle lui écrivait à lui 2 ans plus tard pour essayer, voilà, de passer à autre chose, de mettre à l'écrit tout ce qu'elle ressent, etc. Sauf que son numéro a été réattribué au numéro professionnel de Rob. Et donc du coup, lui va adorer ses écrits et tomber amoureux d'elle. Je sais pas trop comment, c'est ça qui est pas très clair en fait, parce que la fille dit des trucs pas non plus... Enfin tu... En fait, déjà rien que là, je me suis dit, mais comment il tombe amoureux de ces textos-là, quoi. Déjà, ça passait mal. Et puis bon, il va. Ça, en plus, c'est le truc what the fuck. Lui, il travaille. Il est journaliste, mais il travaille avec au sein d'un groupe de musique. Enfin, pas au sein d'un groupe, mais il travaille dans la musique. Et il va interviewer Céline Dion, qui va finir par lui donner des conseils, qui interprète elle-même Céline Dion, hein, et qui va lui donner, voilà, des conseils pour gagner le cœur de Mira. Enfin. Voilà. Et en fait, non mais je te vois rire, mais t'as raison. En fait, ça prend pas. L'histoire ne prend pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'alchimie entre les deux. Céline Dion qui débarque juste pour chanter des nouvelles chansons, et puis alors qui nous fait tout un laïus sur René, à quel point il lui manque et tout. Enfin, ça va pas. C'est vraiment. T'as l'impression qu'ils sont là. Allez, soyez tristes, ressentez de l'émotion. Allez, allez. Et bah non quoi. Après. Je l'ai vu en VO, en VF, pardon, et la VF est catastrophique. Je suis désolée pour les doubleurs. On sait que je suis plutôt team VO, mais que, voilà, quand j'ai pas le choix, je regarde en VF, et c'est rare que je massacre la VF. Hein, pour élémentaire, dans les chroniques à la radio, la post-popcorn, j'ai même dit que la VF m'avait beaucoup plu, moi, personnellement. Parce que j'avais dû le voir en VF, il n'y avait pas de séance en VO. Là, la VF est catastrophique, les dialogues sont nuls. Céline Dion, c'est même pas elle-même qui se double en VF. Donc, tu vois Céline Dion avec une autre voix, c'est vraiment bizarre. Et ouais, non, ça prend pas du tout. Et il y a beaucoup de critiques, enfin, les critiques sont mitigées, hein. Il a environ la moyenne, hein. Il a 2,5, je crois un peu moins sur 5 un peu partout. Mais il y a quand même des critiques qui sont là, ah ouais, c'est une comédie romantique géniale et tout. Non, je suis désolée, j'ai vraiment pas accroché. Je sais même pas pourquoi je perds autant de temps à en parler. Je crois que c'est cathartique, fallait que je me lâche. Mais en fait, c'est la déception, quoi.
Ouais. Bah, c'est vrai que c'était un film que j'aurais été prête à aller, qu'on aille voir ensemble, quoi. J'étais vraiment.
Mais oui.
Je dis, bah, Sammy Wan, un film romantique. Mais non, ouais. Du coup, je regrette pas d'avoir un film.
Mais je comprends pourquoi il soit pas passé longtemps, en fait. Hein.
Ouais. Ouais. Bon.
Ouais. Dommage. Vraiment, vraiment dommage. C'est une grosse déception.
Mais on a vu d'autres films en streaming.
Oui.
Sur Netflix, d'ailleurs, toutes les deux.
Bah, le premier, je vais être assez rapide, parce qu'en fait, je l'avais vu au mois de mai, et je l'ai oublié de l'en parler. Et donc, je me rappelle plus de exactement mes sensations, mon avis, etc. Il a un peu maturé. Et entre-temps, il y a eu les émeutes. Donc, je l'ai vu avant. Il s'agit des Misérables, de Lady G. Que je n'avais pas vu au cinéma, je l'avais raté. Et je sais même pas pourquoi je l'avais raté. Et là, ils l'ont mis sur Netflix, donc j'ai dit bon, c'est l'occasion, et on l'a regardé avec Thibaut. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je le trouve pas du tout manichéen, en fait. Je trouve que ça montre bien et comment ça se passe dans les banlieues, et la difficulté pour la police, mais aussi les bavures de la police. Enfin, ça montre un peu tout, et je l'ai trouvé très bien réalisé. Beau message, enfin, j'ai été captivée. Après, c'est vrai que les émeutes et la mort de Naël sont arrivées juste là, enfin quelques semaines après. Donc ça me ferait bizarre là d'en parler plus, parce que j'ai pas trop envie de parler de politique et tout comme ça. Voilà, dans Pop T, ça reste plus, on va dire, léger. Mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film. Et si tous ceux qui sont passés comme moi à côté quand il était au cinéma, je ne peux vraiment que vous le conseiller. J'avais parlé de Athéna. De Romain Gravas, je crois, si je me trompe pas de nom, il y a quelques temps, qui traite un petit peu le même sujet et que j'avais bien aimé. Les Misérables, c'est quand même au-dessus, et du coup vraiment regardez-le, c'est un très très bon film.
Ouais, je n'avais beaucoup entendu parler quand il est sorti, mais pareil, je suis passée à côté, enfin j'avais pas eu l'occasion de le voir, je savais pas qu'il était sur Netflix, donc un jour je me regarderai. Mais pareil, là je peut-être quand voilà, ce qui s'est passé récemment sera un peu redescendu, là j'ai pas envie de me remettre dans un film comme ça maintenant, quoi.
Mais... ouais, je comprends, c'est aussi pour ça que j'en parle pas plus.
Moi, rien à voir. Ce que j'ai vu sur Netflix, c'est un film qui vient de sortir du coup directement sur Netflix, c'est un film d'animation, Nimona. Alors je connaissais pas du tout, enfin j'avais déjà vu je pense, mais c'est une adaptation de BD, enfin de comics, je crois. À la base, enfin le personnage de Nimona à la base c'était un personnage de BD. Donc c'est un film d'animation alors qui est dans la catégorie jeunesse, hein, dans Netflix, mais qui en vrai c'est comme un Pixar, quoi, ça s'adresse à tout le monde, hein, clairement, ou comme oui, c'est ça. Je pense que je le mettrais un peu dans la même catégorie qu'un Pixar. Et j'ai adoré. Franchement, dès le début, j'étais à fond, l'univers est trop cool, c'est un univers moderne mais avec des chevaliers. C'est vraiment il y a toute une une ambiance très très pop, très néon, tout ça. C'est un peu un Arcane version light jeunesse, tu vois. Ça,
d'accord.
Très très light. Hein, y a pas de. Mais quand même, il y a quand même des thématiques dessous que j'ai trouvé très très chouettes. Et donc en fait, le pitch, c'est qu'on suit un chevalier. Alors même si, comme je dis, hein, c'est thématique voilà de chevalier tout ça, mais c'est dans un monde moderne, de fantasy mais moderne. Donc un chevalier un peu déchu pour une raison que je ne vais pas spoiler, qui se retrouve affublé d'une jeune fille Nimona qui a des pouvoirs en fait et qui est très elle a l'air un peu passionnée par la violence, par faire le mal mais au fond c'est quand même quelqu'un de sensible, on va dire. Et donc c'est cette amitié qui se crée entre ces deux personnages, ce chevalier qui a un code d'honneur très fort mais qui a été déchu et qui doit un peu enfin reprouver son honneur, on va dire, et puis cette jeune fille complètement déjantée. Et ça marche super bien, l'humour mais a trop bien marché sur moi, j'étais morte de rire, c'est assez absurde et je pense que ça peut plaire à la fois à un public vraiment jeune, parce que c'est vraiment un humour qui doit faire rire les enfants, je pense, mais les plus grands aussi, quoi. Il y a à côté, et puis le message de fond est très beau, je trouve, à la fois pour un jeune public et puis pour des adultes. Voilà, ça parle de la différence, de l'acceptation, de plein de choses, et donc ouais, c'est un bon petit coup de cœur. Là, c'est tout frais, je l'ai vu hier soir, et franchement, j'en avais entendu que du bien, et je confirme. C'est très très chouette. Et de la belle animation, franchement, c'est joli. Et ça dure qu'une heure et demie.
Jamais vu, jamais entendu parler, c'est marrant.
Ah, moi, j'en avais pas mal entendu parler. J'avais vu la bande-annonce, parce que peut-être que je suis pas mal aussi d'animation, donc forcément, du coup, je vois passer les choses. Et j'avais vu la bande-annonce qui avait déjà pas mal fait parler. Et puis, en plus, pareil, autre chose très très cool, c'est que c'est un film jeunesse, mais où il y a un couple gay d'emblée et sans aucune ambiguïté, et c'est traité comme quelque chose de totalement normal, et ça fait plaisir parce que c'est très mignon et voilà, c'est cool.
Ok, je note. On va passer alors très rapidement Prime et Disney+. Il n'y a que moi qui ai vu des choses. Mais non, mais je vais aller assez vite, surtout sur Disney+.
Disney+, j'ai regardé des choses dernièrement, mais c'est des choses que j'avais déjà vues et c'est pour un autre podcast.
Ouais. Non, là, j'ai vu, en fait, avec mes élèves de 6e, Édouard aux mains d'argent.
Ah.
Alors, je l'avais vu, mais il y a tellement longtemps que je me rappelais de rien du tout. Vraiment, juste l'image, quoi, enfin, l'esprit général. Et je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça tellement mignon, en fait, les avis de mes élèves, que je voulais les partager. Globalement ils ont adoré hein. Je pense que c'est un film effectivement pour des enfants 6e, c'est très bien. Il y a peut-être une scène où j'étais mal à l'aise moi de les avoir à côté de moi, c'est quand il y en a une des voisines qui se fait couper les cheveux, qui a un orgasme sur sa chaise. C'est vrai que les élèves n'ont pas compris hein, donc ça va, il y a que deux garçons qui se sont regardés, qui se sont fait un clin d'œil. Je me suis dit, est-ce qu'ils comprennent ou pas? Pourquoi ils font un clin d'œil? Mais sinon tout le reste, je pense à, il y a une autre scène où j'étais un peu mal à l'aise, mais en fait personne n'a compris, c'est quand une voisine a un réparateur chez elle et qu'elle dit « Ah, vous pouvez aller profond », enfin, elle fait beaucoup d'allusions sexuelles, et bon, là, ils ont vraiment rien capté, ils regardaient en mode « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Mais sinon, voilà, pour les enfants, ça passe, ça fait pas trop peur et tout. Même la scène finale, ils ont pas du tout eu peur. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que déjà, ils ont adoré. Vraiment, ça a fait l'unanimité, donc ça m'a beaucoup plu parce que ça reste quand même un film assez particulier, c'est du Tim Burton, c'est pas un film auquel ils ont l'habitude de, dans le style auquel ils ont l'habitude de regarder. Et ils ont vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et quand je leur ai demandé voilà quelles sont vos scènes préférées, ils m'ont sorti des quand ils coupent les herbes pour la première fois et que ça fait une forme, c'est trop beau. c'est trop mignon parce que c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et donc dans leur scène préférée également, ça m'a choquée, mais c'était trop marrant. Enfin, tu sens que c'est la jeunesse qui est, comment dire, qui est très engagée. C'était la mort d'un des méchants entre guillemets, parce qu'il est pas vraiment méchant, mais il est pas gentil envers Johnny Depp, envers Edouard. Donc il se là, ah bah c'est bien fait, hein, il a eu que ce qu'il méritait. Hein. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit oui, ok, c'est ok. Et donc je leur dis donc la fin est joyeuse alors. Et en fait, plusieurs m'ont dit bah non, c'est pas une happy ending, c'est un film triste parce qu'au final, Edouard il est toujours pas accepté par le village, il l'aime toujours pas, donc non. Et j'ai trouvé que c'était enfin une que c'était mignon quoi, qu'il s'arrête pas non plus à juste voilà il retourne dans sa vie et puis mais qu'ils aient du recul nécessaire pour voir tout ça. Après ils ont pas eu le recul sur tout parce que ça m'a fait beaucoup rire. Il y en a plusieurs qui sont persuadés que c'est un robot qui ne vieillit pas et que du coup il n'a vraiment pas de cœur, voilà, pas de, mais que c'est un robot. Alors il y en a une qui m'a dit bah non, il vieillit pas parce que en fait c'est elle qui l'imagine et elle sait pas comment il est quand il est vieux. Je dis oui, ça peut être une interprétation. Enfin, c'était vraiment mignon d'avoir leur avis. Et je voulais juste partager à la toute fin. Je leur ai demandé quelle était la morale de l'histoire pour eux. Et c'était assez drôle aussi parce qu'il y en a un qui m'a dit, bah, la morale, c'est qu'on peut être amis avec des gens moches. Oui. Alors, comment tu reformulerais ça de manière plus bienveillante? Et bon, ils ont réussi avec leurs mots à me dire qu'effectivement, il fallait accepter la différence, ne pas se fier aux apparences, accepter les autres tels qu'ils sont, etc. Donc c'était vraiment mignon et du coup, si je voulais en parler là, parce que je le conseille vraiment à tous les parents qui ne savent pas trop, bah je pense à partir de la sixième, ouais, c'est très bien. Il y en a 2-3 élèves qui l'avaient vu en CM2 déjà et effectivement ça peut passer en fonction de la maturité de votre enfant. Mais c'est un très beau film et je le conseille, voilà. À tout public. Après, sur Prime, j'ai vu un film que je n'aurais pas vu avec mes élèves et que je ne conseille pas à tout public. Il s'agit de À Contresens, qui est une comédie romantique, mais ils n'arrêtaient pas de m'en faire la pub sur Prime. Et j'ai longtemps hésité à le regarder parce que le dernier film un peu comédie romantique sur Prime que j'ai vu, c'était nul. Je ne me rappelle même plus du titre. J'en ai parlé dans un des derniers épisodes. Je sais plus, non mais vraiment, c'était avec Lily Collins et... Je crois, non c'était pas avec Lily Collins, si c'était avec Lily Collins, oh, non c'était pas avec Lily Collins.
C'était pas ça avec Jennifer Lopez, où je me souviens qu'elle avait avec Jennifer
oh,
Lopez.
Oh si, mais... c'était nul aussi. Mais c'était pas... ça s'appelait Joli Désastre.
Ah oui, oui je me souviens qu'on avait fait un jeu de mots sur que c'était un joli désastre.
ouais, non c'était pas avec Lily Collins, c'était avec Dylan Spruce et l'actrice, je la connaissais pas. Mais je connaissais Dylan Spruce, c'est pour ça que j'avais regardé. Bref, et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment nul. Et là, en fait, je me suis prise à mieux aimer. Alors c'est marrant parce que Clémence l'a vu sur le Discord, petit coucou à Clem. Et elle a détesté. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a des scènes qui sont complètement what the fuck. Tu lèves les yeux au ciel, tu souffles. Enfin, tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'alchimie entre les deux. D'ailleurs, Clem Misrago m'a dit qu'ils étaient en couple et donc je comprends mieux. J'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'alchimie, que ça matchait bien et l'histoire était assez sympa. En fait, ce qui m'a plu, c'est pour l'histoire très basique, hein, c'est une fille qui est avec sa mère se remarie et du coup elle va vivre chez son nouveau mari et elle découvre du coup le fils du nouveau mari de sa mère et il tombe amoureux mais oulala c'est mal, on est demi-frère et sœur par alliance quoi, voilà. Mais j'ai trouvé que je sais pas, il y avait des choses intéressantes. En fait elle fait des crises d'angoisse parce qu'elle a vécu des choses assez traumatisantes enfin dans sa vie. Il y a du contexte derrière tout ça qu'il n'y avait pas du tout dans Joli Désastre. Et j'ai trouvé ça ouais mignon en fait, enfin je sais pas, je me suis laissée prendre au truc. Alors Clémence disait que les acteurs jouaient très mal, c'est le cas plus ou moins. C'est un film espagnol et en fait moi je me suis au départ, c'était la première fois que j'avais commencé à le regarder en espagnol et effectivement je trouvais que le jeu d'acting était vraiment pas dingue. Et quand j'ai relancé la suite du film, que j'ai dû regarder 10 minutes, j'ai fait autre chose. Et quand j'ai relancé, ça s'est mis en anglais automatiquement. Et en fait, il y a un gros défaut sur Prime, c'est que tu ne sais pas la langue d'origine. En fait, tu sais, sur Netflix, quand tu choisis une langue, oui. Si tu choisis anglais, il y a écrit entre parenthèses VO. Mm-hmm. Et ben là, tu sais pas sur Prime. Donc, je me doutais bien que c'est parce que quand ils ont des livres, ils sont écrits en espagnol et tout. Mais je savais pas trop, et donc j'ai regardé en anglais comme ils m'ont remis en anglais la deuxième fois. Et en anglais, au final, le jeu d'acteur passe beaucoup mieux. Donc voilà, si vous aimez les comédies romantiques, franchement, c'est pas la comédie romantique de l'année, mais sur une plateforme comme ça, ça se laisse très bien voir. Et effectivement, regardez peut-être le en anglais.
Les acteurs de doublage sont meilleurs sont que meilleurs. Les acteurs quotidiens.
Ouais, bah écoute, hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est une suite de livres, de ce que j'ai compris. Et donc, il va y avoir une suite hein, pour le livre 2. Et donc, pourquoi pas? Voilà. Mais pourquoi pas? Et en fait, s'il y a juste un truc qui m'a bien marqué, et je pense que c'est aussi ça qui m'a plu, c'est que quand ils couchent ensemble, et bah ils utilisent une capote à chaque fois. Et à un moment, ils en ont plus, et bah ils vont au magasin. Et je suis désolée, mais dans les comédies romantiques de nos jours, c'est tellement rare.
C'est vrai, c'est vrai.
T'as l'impression que la contraception n'existe pas. Et ouais. En fait, ça m'a vraiment marqué, et je me suis dit, ah ok, c'est un film romantique un peu à l'ancienne, parce que c'est La Demoiselle en détresse, voilà. Mais de l'autre côté, c'est plus moderne que certains. Et je vais enchaîner très vite avec les autres films que j'ai vus sur Prime, puisque du coup, Joli Désastre, je me souviens avoir dit, il paraît que c'est un peu comme After, la saga After, qui est très connue.
C'est vrai.
Et à contresens, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme Joli Désastre, mais un peu mieux fait, hein, du coup. Et je me suis dit, donc c'est, je vais finir par regarder After. Et donc, je les ai enchaînés. J'ai regardé After 1, 2, 3, 4.
Il y en a 4?
Il y en a 4. Et il y a le 5 qui sort en septembre. Attention.
Waouh.
Alors, c'est loin d'être les films de l'année. En gros, si je peux résumer After, alors c'est marrant parce que sur le fichier, t'as dû voir que j'ai écrit juste 2, 3, 4, parce qu'en fait Amazon fait très fort, le 1 est payant, mais ils ont gratuitement le 2, 3 et le 4.
Ah bah d'accord, ok.
C'est beau hein.
Mais c'est bizarre, en général ce serait plutôt l'inverse, genre t'accroches avec le premier, puis après tu fais payer pour la suite quoi, mais...
Bah ouais, je me suis dit ça, et après je me suis dit en même temps ils sortent le 5 là en septembre, donc tu vois les images du 5, ça te donne envie, tu vas te dire bah je vais me faire la quadrilogie là, enfin... la suite, et en fait, t'es obligé de payer le 1 pour regarder le 2, parce que quand tu recommences, parce que du coup, je me suis dit, je vais regarder le 2, tant pis, je squeeze le 1. Mais le 2, c'est vraiment la suite directe. C'est, vous voyez comment ça se termine, le 1? Mais en fait, c'était pas ça. Et j'étais là, mais pourquoi? Il s'est passé quoi? Du coup...
Donc, t'as payé le 1, du coup?
Alors, en fait, comme je ne savais pas si j'allais aimer, je n'ai pas payé le 1. Ouais. J'ai regardé de manière illégale le 1, mais dans une VF bien pourrie. Du coup, je me suis dit que quand le 5 allait sortir et que je serais en congé maternité en octobre, je paierais le 1 et je me referais un 2, 3, 4 pour regarder le 5.
Eh bien, donc voilà. Ça t'a plu au point que tu
ouais,
dis
alors,
que tu...
Attention, ça m'a plu, c'est un grand mot. En vrai, tu te laisses totalement porter par le truc. Parce ouais. que c'est une histoire romantique avec complètement du « je t'aime, moi non plus ». On est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Donc, il n'y a aucune histoire quasiment. À part un couple assez toxique l'un pour l'autre, mais que ce soit très clair, c'est dit, hein. Vraiment, c'est dit, t'es toxique, t'es trop jaloux, t'es trop ci, t'es trop ça, enfin, voilà, c'est pas idéalisé. C'est un peu un Twilight sans les vampires, je dirais, au niveau de la relation amoureuse, tu vois.
Ok, je vois. Mais il me semblait qu'il y avait eu, effectivement, moi j'avais entendu parler d'After et c'était un peu dans la mouvance Twilight, enfin dans le,
ouais,
le même
ça.
Vibe.
Bah, je pense que ado j'aurais encore plus kiffé, c'est vrai, ça aurait été vraiment totalement ma came. Je pense que là je suis un peu vieille, entre guillemets, pour être le public cible.
C'est des bouquins aussi, non?
C'est des bouquins aussi, ouais. Mais à côté de ça, c'est pas catastrophique, je m'attendais vraiment à quelque chose de pire. C'est pas catastrophique. Tu les vois évoluer, grandir, y a quand même des choses, enfin tu te laisses vraiment prendre au truc. Et dans celui-là aussi, à chaque fois qu'ils vont coucher ensemble, ils sortent une capote. Voilà, c'est assez impressionnant. Jusqu'au jour où elle dit, bon bah voilà, ça fait longtemps qu'on est en couple ensemble, je vais peut-être me renseigner, aller chez mon gynéco pour prendre la pilule. Enfin, vraiment, tu vois, c'est des choses où... Bah, je m'y attendais pas dans des comédies romantiques comme ça, tu vois. C'est jamais le cas d'habitude. Donc, c'est un point positif.
Cool. Bon, bah voilà, tu t'as rattrapé ta culture.
Ma lacune.
Bah voilà, parce que je pense que c'est, bah ouais, c'est pas mon style de film, mais j'en avais quand même entendu, je connaissais l'existence d'After, donc je me dis que c'est quand même un classique dans ce genre là mais
non, mais je comprends.
Alors, changement totalement d'ambiance avec le film que j'ai vu. Alors moi, je l'ai vu sur OCS, mais il est plus sur OCS depuis. Ça fait partie des films. Voilà, ils font des sélections, il y a des nouveaux films régulièrement. Et donc là, maintenant, pour le voir, il faut payer sur voilà des plateformes de location. C'est Darkman. Un vieux film. Alors j'ai regardé, c'est la même année que Édouard aux mains d'argent. C'est aussi un film de 1990 de Sam Raimi. Et donc c'est ma mère qui quand j'étais chez mes parents dit ah j'ai vu qu'il y avait ça machin, on pourra peut-être le regarder. Donc on l'a regardé, j'ai regardé avec mes parents. Donc ouais, un film de Sam Raimi de 1990 avec Danny Elfman à la musique, donc comme Édouard aux mains d'argent. Oh.
Ah ouais, marrant.
Et aussi avec comment il disait ton élève, on peut être ami avec des gens moches, un truc comme ça. C'est un peu la même vibe. Ouais. Non, là en fait, on part avec un scientifique qui est joué par Liam Neeson, qui se retrouve attaqué par des méchants. Je ne sais plus pour exactement quelle était la raison pour laquelle ils attaquent. Enfin, je crois qu'ils cherchent un truc. Enfin, bref. Et il y a un problème. Enfin, c'est un scientifique un peu chimiste, quoi. Et il y a un problème de réaction avec des produits et ça explose. Et lui, il est pris dans les produits et du coup, il se retrouve complètement défiguré, mais toujours vivant. Et donc c'est un peu son histoire de vengeance. Il incarne du coup un peu cette créature défigurée, mais avec un grand chapeau, le visage recouvert de tissu, etc. Et bref, et du coup il veut se venger de ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est ça en gros l'histoire. Après, l'histoire en elle-même, j'ai pas trouvé ça passionnant. Enfin, c'est une histoire de vengeance assez classique. Par contre, le style est assez sympa. Enfin, c'est très très dégueu en fait. Ouais. C'est vraiment les effets visuels sont bien dégueux. Mais en fait, dans le même style, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu au niveau de l'ambiance, ça ressemblait un peu à Robocop, même si l'histoire est pas exactement la même. Et j'ai préféré Robocop. J'ai trouvé ça plus. Il y a vraiment un sous-texte plus profond et plus. C'est aussi violent, c'est très très violent. Il y a des bras arrachés, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, il y a des moments horribles et qui sont traités de manière vraiment très très normale. Genre, on est dans un hôpital et il y a des gens qui sont vraiment genre. Mais genre les docteurs, ils sont totalement normaux et ils parlent de manière totalement normale, et mais ils font des trucs horribles en fait aux gens qui sont dans l'hôpital. Donc ouais, il y a un peu cette ambiance un peu étrange et qui est que j'ai trouvé intéressante, mais voilà, c'est pas j'ai pas trouvé ça non plus génial. Mais je suis contente de l'avoir vu. Voilà, un film de Sam Raimi avec Liam Neeson.
Bah ouais.
Et il y a eu toute une saga apparemment. Il y a eu des suites.
Ouais, c'est ce que je viens de voir. Il y a une trilogie, mais ils ont changé d'acteur et de réalisateur.
Oui, donc je n'ai pas spécialement envie de voir la suite, mais sauf que je vois dans le 2, il y a le retour du grand méchant du 1, alors qu'il semble être bien mort dans le 1, donc je ne sais pas ce qui est arrivé. Donc voilà, c'est... Il y a Frances McDormand aussi, du coup beaucoup plus jeune aussi, qui fait un peu l'amoureuse, on va dire, du scientifique, qui pense du coup que son grand amour est mort, et en fait non. Bref, non, c'est... Voilà, c'est... À voir si vous aimez ce genre. Je pense que dans le genre du fantastique un peu gore, c'est pas mal, mais il y a mieux quand même.
Ok. Je t'avoue que tu m'as pas trop convaincue.
Non, pour le coup, non, je le conseille pas à tout le monde et je pense que je te le conseillerais pas.
Ça peut trouver son public quand même.
Oui, oui, oui.
On va pouvoir passer aux séries.
Oui, parce qu'il y a quand même encore pas mal de choses à dire côté séries.
Ouais. Et on va commencer par les séries Netflix, dont les deux qu'on suit ensemble, qui ne sont pas terminées, mais on peut déjà dire, je pense qu'on pense du début de cette saison. Et je suis très contente que finalement, à cause de mon Indiana Jones 5, on ait repoussé l'épisode, parce que mon avis va être totalement différent pour Outlander saison 5.
Carrément, pareil.
Parce que là, au moment où on enregistre, on a vu 4 épisodes.
5, je crois. Hein.
Ah, déjà 5 Ah ouais, 5 épisodes. Et au moment où on aurait dû enregistrer, on aurait dû en voir que 3. Et je sais que bah, tu penses un peu comme moi, mais j'avais été assez déçue par ces 3 premiers. Je l'avais trouvé pas catastrophique, mais plein de petits défauts au niveau du rythme, surtout au niveau du rythme en fait. Enfin, ouais. Et puis au niveau des histoires, il se passait pas grand-chose. On parlait beaucoup de choses de la précédente saison qui pour moi avait été un gâchis. Enfin, j'ai pas du tout aimé cette saison 4, donc qu'on reprenne des intrigues de la saison 5 qui pour moi étaient finies, c'était lourd. Et ces deux derniers épisodes là, 4 et 5, incroyable. On retrouve les débuts d'Outlander tels que je les aimais, avec des moments forts en action, des moments forts en émotion, des moments où on se pose, mais d'autres où il se passe des choses. Voilà, pas mal de réflexions, des liens entre les personnages. Enfin, vraiment, j'ai hâte de revoir la suite, quoi.
Alors juste, tu dis tout à l'heure que c'est la saison 5, je crois que c'est la saison 7.
7 ? Ah mince ! Putain, je croyais qu'on était qu'à la 5. Bon, bah la saison 7 déjà. Du coup, ouais, c'est la 6 que j'ai pas aimée. Et, ah bah tu vois, 4 et 5, ça m'a pas marqué parce que la 1
ouais.
Et la 3...
En fait,
2,
je me dis,
3...
mais attends, je me souviens de la 1 jusqu'à la 3 à peu près. Après, je dis, mais il se passait d'autres trucs entre temps.
Mais en fait, ça a été un peu le problème d'Outlander. Je trouve que la 1 était exceptionnelle. La 2 et la 3 ont été très bien réussies. Et après, je dis pas que c'est raté, mais j'en ai pas de souvenir. Et à part la 6 que j'ai pas du tout aimée. Mais bah non, du coup, la 7 là reprend enfin une belle voix.
Ouais, je suis d'accord. Moi, notamment sur ces deux derniers là qui sont vraiment très très cool. Donc bon, on spoil pas dans les zappings, donc on peut pas dire pourquoi elles sont cool. Mais je suis d'accord. On trouve à la fois la dimension historique et le contexte historique qui est vachement plus présent et intéressant et voilà des liens avec ce qui se passe dans l'histoire que j'attendais hein, clairement depuis au moins une saison ou deux. Puisqu'ils sont aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance, donc j'avais quand même envie que ça se concrétise par ce genre d'intrigue, comme on l'a eu pendant les révoltes jacobites. Et donc ouais, enfin on a ça. Et puis pour une raison qu'on ne comptera pour pas spoiler, on retrouve des séquences dans le présent. Bon, le présent des années 70, hein, c'est ça ? 80, peut-être, maintenant ?
Je sais plus. Moi, ouais, j'aurais dit 70, ça fait très...
Oui, 70,
je pense. 70, ouais.
Ouais,
au niveau des habits et tout.
Oui, de la caravane, tout ça. Mais non, ouais, j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai beaucoup apprécié. Il y a des personnages que je trouvais un petit peu mis de côté jusque-là qui retrouvent un peu de l'intérêt. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est des personnages que j'aimais beaucoup et que j'avais un peu perdu en intérêt. Voilà. Et il y a des mystères à nouveau où t'as vraiment envie de savoir qu'est-ce que ça cache. Donc ouais, non, franchement... Enfin, j'ai hâte vraiment d'une semaine sur l'autre à voir la suite. Donc, j'espère que le reste de la saison va être sous la même vibe que ce qu'on a. Et puis, les nouveaux personnages aussi qui sont très chouettes.
Il y en a des top.
Ouais. Donc, ouais, très, très contente de ces épisodes 4 et 5. Et j'espère qu'à la fin de la saison, on pourra dire que... qu'enfin on a une bonne saison.
J'espère. Mais là j'y crois, ça y est. Après la saison 6, je sais qu'elle avait été pas mal perturbée entre le Covid, la grossesse de l'actrice principale, enfin voilà, je crois qu'elle a été écourtée au niveau du tournage, enfin il y a eu pas mal de petites choses. J'ai cette sensation que le début de la saison 7, c'est la fin de la 6 qu'on aurait dû avoir.
Je pense aussi, oui.
Et que là, on démarre enfin la 7. Je peux me tromper, mais faudrait que je lise... J'ai tous les livres, en plus, c'est ça le pire. Mais faudrait que je lise les livres pour pouvoir comparer tout ça.
Alors, autre série, on est en cours de saison, puisque c'est une sortie en deux vagues. Donc, c'est The Witcher saison 3. Donc, on a eu une première vague de 5 épisodes. Et on aura une deuxième vague de 3 épisodes.
Ah, c'est tout ?
Il n'y en a pas autant, je crois, pour la deuxième vague, dans pas longtemps, hein, dans une semaine, enfin, à la fin du mois de juillet, on aura la fin de la saison. Alors, moi, je suis plutôt contente de ce début de saison. C'est... Pourquoi t'as fait des grimaces?
Parce que, en fait, c'est autant à Outlander, chaque épisode, on se donnait notre avis, autant The Witcher, on n'en a pas du tout parlé.
C'est vrai.
Est-ce qu'elle a aimé, est-ce qu'elle a pas aimé, ouais. Est-ce qu'on va être d'accord, est-ce qu'on va pas être d'accord?
Bah moi en fait, ce que j'ai aimé, c'est que je retrouve mes personnages chouchous, quoi. Donc ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment, enfin dès le premier épisode, j'étais contente de les retrouver dans des dynamiques. En fait, je trouve que vraiment un des points forts là, de la première partie de saison, c'est la dynamique entre les personnages que je trouve vraiment très très chouette. Et c'est ce que j'attendais, donc c'est cool. Les intrigues de fond, je suis un petit peu plus perplexe. J'étais un peu perdue. Notamment dans l'épisode 2 où j'étais genre oh là 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 je sais plus là enfin et ça m'intéresse pas en fait ce qui se passe, enfin il y a des intrigues de cours qui m'intéressent pas, il y a des intrigues ouais secondaires qui je vois pas trop où ils veulent en venir. Après c'était déjà un peu le cas dans la saison 2 hein, mais là c'était encore ça donc voilà, après ça s'est rattrapé dans l'épisode 3 et 4 où vraiment il y a des morceaux d'épisodes que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et du coup ça m'a remis dedans. Et ouais, un épisode 5 qui était assez particulier dans la manière dont il était fait, un épisode un petit peu à part que j'ai trouvé cool du coup dans sa construction. Donc voilà, je reconnais que The Witcher a toujours des défauts, voilà, que c'est pas une série parfaite, mais j'aime toujours, quoi. Je suis toujours, c'est toujours plaisant pour moi. Et gros point fort sur la musique sur cette saison. J'avais beaucoup aimé la musique dans la première saison. La deuxième, oui, mais un petit peu moins. Et là, en plus, je l'ai dit sur le Discord, ils ont ramené dedans un groupe qui a participé aussi à la BO des jeux vidéo, notamment The Witcher 3 d'ailleurs, et qui est génial. Et donc, comme moi, une des raisons pour lesquelles j'adore The Witcher, c'est Henry Cavill et c'est la musique. Et bah là, je suis contente d'avoir de la très très bonne musique sur cette partie de saison en tout cas.
Moi, j'ai été très déçue.
Ah.
J'ai pas du tout aimé ce début de saison. Je sais pas si tu te souviens, le premier épisode, j'avais été très élogieuse sur le Discord en disant « Ah, oui. Je suis contente de... » Mais parce que c'était, comme tu as dit, la musique ouais. Incroyable, le retour des certains personnages, les relations entre eux. Je me dis « Ah, oh, trop bien, vas-y, je suis au taquet et tout. » Pour la petite anecdote, j'avais déjà raconté, mais moi, The Witcher, je l'ai regardé dans le désordre total. En fait, j'ai regardé la saison 2 et ensuite j'ai regardé la saison 1 quand j'étais à New York avec Tib, parce que c'était à ce moment-là où la saison 2 est sortie. Et du coup, quand on était en décalage horaire le matin et qu'on se levait hyper tôt, bah lui, il regardait la saison 2 parce qu'il avait déjà vu la 1. Et donc, j'ai commencé à regarder avec lui. Et il m'a eu en me disant... Il croit que son amoureuse est morte, en fait c'est pas le cas. Et donc j'étais à fond en mode « Oh là là, je vais voir les retrouvailles !» Et j'ai été happée par l'univers, par Henry Cavill, par effectivement Yennefer que j'adore. J'adore son rôle dans la saison 3 hein, d'ailleurs.
Ouais.
Mais voilà, et donc j'ai regardé la saison 1 après rattraper ce qui me manquait. Et donc là on regarde la saison 3 ensemble avec Thibaut. Et en fait ouais, l'épisode 1 super. Et en fait, ça a été que de pire en pire. Le 2, un peu moins bien. Le 3, un peu moins bien. Le 4, encore moins bien. Le 5, mieux. Effectivement, c'est tout ce rythme que j'ai beaucoup aimé, cette construction d'épisodes. Et puis, il y avait beaucoup de Yennefer aussi, donc voilà. C'est mais vrai. J'ai vraiment bien aimé les intrigues et la manière dont c'était construit. Mais tout le reste, j'ai trouvé que c'était mou, qu'il se passait pas grand-chose, que les dialogues les plus intéressants, c'était pas ceux de l'intrigue, que l'intrigue n'avançait pas. Et ouais, honnêtement, des fois, je me suis vraiment fait chier, quoi. Il y a des épisodes avec Tib, et je sais que lui, c'était pareil. On se regardait, on disait, vas-y, on coupe, on regardera la fin plus tard. Et j'étais très déçue parce que j'ai adoré la 1 et la 2, j'étais vraiment à fond. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, quoi? Et j'ai vu que les audiences ont fait que chuter, pareil, dans les épisodes, donc je sens que je suis pas la seule. Donc j'attends beaucoup de cette deuxième partie parce que le dernier épisode du coup était mieux, mais j'ai l'impression que ouais, c'est ce qu'ils nous font dans certaines séries où ces derniers épisodes il y a là c'était pas le cas, mais il y a un cliffhanger ou quelque chose qui fait que t'as envie de regarder la suite alors que toute la saison c'était bof. Je sais que ma série référence pour ça c'était True Blood que je regardais, et à chaque fois pendant toute la saison je me disais c'est nul, ouais c'est lent, il se passe rien, et le dernier épisode il se passait un truc où j'avais envie de regarder la saison d'après, c'était horrible. Et du coup j'ai tout vu comme ça juste grâce à chaque fois un épisode, et donc j'espère vraiment que la fin sera à la hauteur, mais je suis un peu déçue.
Ouais, non je suis d'accord hein, c'est sur le fond et ça manque de je sais pas, puis enfin en vrai Siri elle me saoule.
Ah moi aussi, merci. Des fois je me suis dit je suis pas féministe ou quoi pour pas l'aimer parce que c'est pourtant le rôle, enfin tu vois, t'as envie de ce genre de rôle.
Je crois que c'est l'actrice J'ai du mal parce que c'est un personnage que j'adore dans le jeu vidéo, vraiment elle est trop bien. Les livres, bah j'ai pas lu assez l'avoir lu dans les livres, j'ai lu que des trucs qui se passent avant qu'elle apparaisse, mais du coup ouais là je crois que c'est l'actrice qui
tête à claque, elle me saoule. Ouais. Voilà, ouais, j'ai beaucoup de mal.
Alors qu'effectivement, Yennefer est très cool et ça continue à faire partie des moteurs vraiment, je trouve, de et l'actrice est excellente. Et puis bon, bah Henry Cavill, alors même si je trouve qu'il a moins de choses à faire là dans cette saison par rapport à avant, et du coup il est moins, ça tourne pas autour de lui, ce qui est bon, ok, mais il y a quand même, enfin il a moins son rôle même de sorceleur, en fait il a moins son rôle de Witcher.
C'est dommage.
Il y a juste une séquence que j'ai trouvée hyper dérangeante là avec un monstre qui est horrible et où du coup on est un peu plus dans la vibe Witcher, ça fait partie des trucs qu'on aime bien dans Witcher, même si là c'était vraiment dégueu, mais bon ça fait partie du truc. Et là j'étais genre ah, c'est pour ça que j'avais bien aimé aussi cette partie là parce qu'on retrouvait un peu une espèce de mini intrigue avec un petit mystère, avec des trucs comme une mission de Witcher quoi, et ça j'avais c'est pour ça que j'avais re-aimé un petit peu à ce moment là mais ouais, sinon mais bon, il y a Jasquier.
Ouais, je l'aime toujours autant.
Même s'il faudrait qu'il lui remette sa coupe courte hein, parce que c'est cette coupe de cheveux, ça lui va pas.
Ouais, ouais. Non, c'est sûr.
Mais il est mignon et il y a vraiment des scènes de lui.
Non, il y a quand même quelques petits points forts, mais en fait, c'est toute l'intrigue principale qui est décevante et du coup bon, on verra bien la fin.
Ouais.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner ensuite.
Alors, j'ai regardé un autre truc sur Netflix. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Moi, je n'avais jamais entendu parler.
Faut savoir que quand j'ai regardé ta liste, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'étais là, mais elle m'a sorti que des trucs qui sortent de nulle part.
Un peu, ouais. Alors là, c'est un petite dédicace à Salem qui m'a fait découvrir ce truc. C'était en lien avec un autre podcast qu'on a enregistré pour la Gazette du Sorcier. Et elle m'a dit, mais ça me rappelle ce qu'on fait pour ce podcast. Ça me rappelle ce truc sur Netflix où en gros, c'est une nana qui est complètement à côté de la plaque. Donc c'est un espèce de faux de documentaire mais un peu décalé anglais où on suit cette nana qui veut découvrir un peu l'histoire de l'humanité et qui a des idées un peu déjantées sur le pourquoi du comment de certaines choses. Et donc c'est chronologique, il y a que je sais plus 3 ou 4 épisodes. Et c'est un truc éducatif, on apprend des choses quand même, mais où ça passe un peu les grandes phases de l'histoire de l'humanité, et elle va rencontrer des vrais spécialistes et elle leur pose des questions mais complètement à côté de la plaque, et eux du coup ils essaient de répondre de manière sérieuse, et quand ils lui disent un truc, elle réagit, elle dit ah mais du coup j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais elle a vraiment elle est un peu dans son monde à elle quoi, donc voilà, donc j'ai trouvé ça très très drôle, c'est de l'humour anglais absurde vraiment que j'adore, et ouais je les ai vraiment enchaîné les épisodes et ça m'a fait beaucoup rire, donc je conseille si vous voulez une petite parenthèse en british absurde un petit peu éducatif, parce que je pense que c'est quand même adressé pas au jeune public, mais je suis peut-être quand même au jeune public pour découvrir un peu des grands trucs de l'histoire quoi, mais ouais j'ai bien aimé.
Ça peut être marrant, j'aime bien l'humour british, donc
ouais, ça mais surtout pour ce personnage là de la présentatrice qui est vraiment très très drôle quoi.
Mais j'en ai jamais entendu parler non plus. Je suis en train de regarder du coup à quoi ça ressemble. J'en ai jamais entendu parler, c'est marrant.
Ben je sais pas d'où ça. Si c'est de la BBC à la base, c'est un truc de la BBC.
Ouais, ça je pense que je regarderai peut-être.
Et puis c'est pas si vieux. Je pensais que c'était plus vieux que ça, mais non, ça date de 2022 donc.
Bah ouais, vu que c'est que 5 épisodes. Ouais, non, ça, je vais mettre sur ma liste.
Je conseille.
Alors moi, sur Netflix, j'ai regardé deux choses et la moitié d'une chose. Alors je vais commencer par la moitié d'une chose, parce que je voulais juste faire une annonce. Ne regardez jamais la série Manifest.
D'accord.
Voilà. Faut savoir que j'ai commencé à la regarder quand ça passait sur TF1, parce que... J'avais bien aimé Lost, même si ça partait un peu en live à la fin et que j'avais pas été jusqu'au bout, j'avais juste été voir comment ça se terminait par curiosité. j'avais quand même bien aimé cette intrigue autour d'un vol qui disparaissait, etc.
Et là, j'ai jamais vu Lost, je le dis très bas, mais j'ai jamais vu Lost.
En fait, moi, il y avait deux acteurs que j'adorais dedans et que c'est vraiment typiquement pour eux que j'ai regardé. Mais d'ailleurs, il y en a un, je pense que tu le connais.
Bah, c'est pas Dominique Monaghan ?
Si, c'est ça, voilà. Oui, mais après, il y en a d'autres que tu connais aussi. Hein. Je regardais pour lui et pour...
Evangeline Lilly.
Ouais, Evangeline Lilly un petit peu, mais non, c'était... mince, comment il s'appelle l'acteur Ian Somerhalder, l'acteur de Vampire Diaries, que j'ai connu du coup grâce à Lost au départ, je crois que Lost est plus vieux. Bref, enfin, j'aimais beaucoup Lost à cause d'eux. Et donc là, bah, le concept m'intriguait, un avion qui disparaît, qui réapparaît 4 ans plus tard, ils ont pas vieilli, et pendant 4 ans, le vol avait totalement disparu, et eux, c'est comme s'ils avaient fait un vol normal. Je me suis dit, oh, c'est intriguant, TF1 arrive bien à vendre ce genre de choses. Donc j'avais commencé à regarder, j'avais bien aimé, j'avais bien accroché, après les saisons ont été mises sur Netflix, et donc j'avais continué à regarder sur Netflix. Non, c'est pas ça, je m'en souviens maintenant. Les 1, 2, 3 sont passés sur TF1, donc j'avais regardé sur TF1, la 1 et la 2, et j'avais abandonné parce que au bout d'un moment, je regarde pas souvent la télé, donc je regarde que en replay à chaque fois, mais il suffit que tu rates 2 semaines et les épisodes d'avant sont déjà plus là, enfin bref. Donc j'avais juste vu 1 et 2, et en fait, ça s'est arrêté après la 3, et Netflix a racheté les droits pour faire la 4.
Ok.
Et donc quand tout est arrivé sur Netflix, je me suis rattrapé ce qui me manquait, et j'ai enchaîné avec la 4, la nouvelle, qui est la finale. Et la fin est catastrophique. Je n'ai rarement vu, peut-être même jamais vu, une fin aussi pourrie. Et en fait, je l'ai raconté à plein de gens, cette fin, qui m'avaient dit « je regarderai pas de façon manifeste ». Donc là, je vais pas le faire, parce qu'on sait jamais, hein, mais... Et à chaque fois, ils étaient morts de rire. C'est une fin, mais what the fuck? Vraiment, si tu pouvais écrire un truc pareil, je ne sais pas. Et en fait, je l'ai pas regardé au début, j'ai juste regardé sur Internet pour voir comment ça se terminait, comme Lost, pour voir comment ça se terminait, comment ils expliquaient ces disparitions et tout. Parce que dans la saison 3, ils commençaient à mélanger des trucs avec la religion, ils mélangeaient Dieu à tout ça, enfin avec l'Arche de Noé, et je comprenais rien à ce qui se passait. Je me suis dit, ok, ça part trop loin. Donc du coup, j'ai lu la fin sur Internet, et j'y croyais tellement pas que j'ai dû regarder le dernier épisode pour voir comment ils ont sorti ça. Et c'est une catastrophe. Et franchement, je trouve que c'est un énorme gâchis. Je ne comprends même pas comment Netflix a pu racheter une série pour en faire ça, quoi. Donc vraiment, vous, si vous voyez la série qui passe sur Netflix, ne perdez pas votre temps, ne regardez pas ces 4 saisons. C'est inutile, je vous promets, faites-moi confiance. Et si vous avez un doute, écrivez-moi sur Discord ou sur Instagram. Demandez-moi qu'est-ce qui se passe à la fin. Je vous le raconterai avec plaisir. Mais voilà.
Ah, je veux savoir, moi, du coup. Non.
Ah non, mais vraiment. Mais en plus, je crois que je te l'ai raconté.
Je me souviens plus.
Bon, écoute, à la fin de l'épisode, je te le raconte. Voilà, c'était juste mon message. Ne regardez pas Manifeste. La fin est trop décevante. Après, les 2 autres séries, je vous les conseille fortement. La première, c'est vraiment une de mes coups de cœur. J'ai pas arrêté d'en parler. Il s'agit de Mes Premières Fois. Never I Have Ever. Et là, c'est la saison 4. C'est la saison finale. Qui est
déjà
une 4, série,
j'ai l'impression que tu en as déjà parlé, mais qu'on parlait que de la première. Mais en fait, il y a 4 saisons.
Mais oui. Non, je suis sûre que j'en ai parlé à chaque fois, à chaque saison. Non, j'adore cette série. C'est vraiment une de mes séries coups de cœur. Donc, c'est la vie d'une adolescente indo-américaine. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ses parents sont indiens tous les deux, hein, mais elle a grandi aux États-Unis. Et en fait, elle va jongler entre sa vie de pas trop populaire, avec ses envies d'être populaire, avec ses origines. C'est pas forcément facile à chaque fois de respecter ses origines et de vivre avec. Et le décès de son papa qui l'a énormément affecté. Et donc il y a aussi toute cette partie sur le deuil, et c'est une série qui est quand même très comique, qui est très très drôle. Elle est faite par Mindy Kaling, qui je trouve est une femme hilarante et qui est très douée pour parler de tout ça. C'est une série hyper inclusive et drôle, et qui prend des sujets sensibles, et vraiment c'est un coup de cœur. C'est une de mes séries préférées, je pense, et cette saison 4 est parfaite et conclut hyper bien la boucle, et vraiment je ne peux que la recommander.
Peut-être que je m'y mette quand même.
Ouais, franchement ça te plairait en plus, hein, vraiment, je suis sûre.
Mais oui, je pense aussi, enfin en tout cas tu me le vends bien.
ouais, non, vraiment j'ai beaucoup aimé, et je suis très contente que la saison, enfin que ça se termine, et que ça se termine bien. Et ouais. De cette saison qui qui est efficace. Et on a eu enfin une danse Bollywood. Génial. Je me suis dit quand même, un jour ou l'autre, ça faudrait. Et voilà. Bon, après, il y a tout... On retrouve aussi... Enfin, tu vois, je parle... Il y a beaucoup le deuil de, avec son papa, mais on parle aussi beaucoup de ces histoires d'amour, de ces histoires de cœur, ces histoires d'amitié, quoi. Ça reste assez léger dans certains thèmes abordés. Mais pas que, tu vois. Enfin, en fait, toi, tu me connais bien. Elle a beaucoup de points communs avec moi. Et c'est aussi, je pense, pour ça que j'aime beaucoup cette série. Tu sais, le côté très impulsif, côté un peu revanchard quand il y a quelque chose qui te plaît pas. Le côté je tape des colères quand il y a un truc, je suis très possessive en amitié, tout ça. Elle a tout ça. Et en fait, elle va voir une psy aussi, où elle en parle beaucoup avec sa psy. La psy qui est excellente, enfin... Et en fait, je trouve que ça montre vraiment des ados aussi de nos jours, mais différents de ce qu'on a l'habitude de voir à la télé.
Non, mais je vais m'y mettre.
Et la deuxième série que j'ai vue sur Netflix, alors moi je ne l'ai pas vue sur Netflix, en fait je l'ai vue sur TF1, mais elle a été mise sur Netflix depuis, c'est HPI.
Beaucoup entendu parler et j'ai jamais regardé.
Bah, je serais moins dithyrambique parce que j'ai bien aimé, hein, franchement j'ai regardé avec plaisir. Et c'est une des rares séries que je regarde avec Thibaut aussi. Parce qu'il aime bien. En fait, c'est assez léger. Un épisode, c'est une enquête. Alors, il y a forcément, voilà, une intrigue, un peu comme Bones, un peu comme NCIS. Avec...
Mais c'est le format série policière.
C'est le format série policière.
De
voilà,
personnages, mais il y a une intrigue.
Exactement. Ouais. Mais sinon, un épisode, une enquête. Je ne suis pas sûre que l'héroïne, c'est Audrey Fleurot, qui est excellente, qui joue hyper bien, joue une personne HPI. Je ne suis pas sûre que ce soit hyper bien représenté. Voilà, je n'ai jamais eu d'élève HPI, c'est pas quelque chose que je connais bien, donc je ne sais pas, je pourrais pas dire oui et ou non. J'ai l'impression que c'est un peu stéréotypé, un peu caricatural, mais je pourrais encore une fois pas le dire. Mais je trouve que les enquêtes sont sympas, on se laisse vraiment prendre au truc. L'histoire globale, les personnages sont attachants, donc t'as envie de suivre, de voir ce qui se passe. Et franchement, les trois saisons, je les ai dévorées à chaque fois... C'est très léger et c'est très sympa.
Cool. Bah non, bah ça correspond à ce que j'ai entendu de la série. Ça a l'air sympa. Après, bon, je sais pas si je... Ouais, enfin, c'est vraiment une série que je regarderais de manière dilettante comme ça, mais j'ai du mal à trouver le temps pour...
Ouais, bah c'est ça le problème. Non, c'est pas forcément une priorité, tu vois, mais si un jour, effectivement, voilà, tu cherches... Après, les épisodes durent quand même 45 minutes, un truc comme ça, puisque c'est une enquête, donc il faut que ce soit assez long. Mais c'est drôle, enfin, c'est la chose. Puis au pire, c'est la chose que, comme c'est en plus français, du coup, tu peux le mettre en faisant autre chose en même temps. Ouais. Tu vois, t'es pas perdu. On va pouvoir passer à Prime Video.
Je peux dire ce que j'ai vu, ça te fait une petite pause après toi.
Vas-y. J'ai regardé trop de trucs. On sent que je suis en vacances là.
Ben moi, j'avoue, j'ai regardé peut-être un peu moins de séries ces derniers mois parce que tu te souviens le mois dernier, j'ai parlé de la série de fantasy que j'ai commencé, The Wheel of Time. Je me suis dit maintenant, il va falloir que je me mette au bouquin. Ben j'ai commencé du coup j'ai plus que commencé. J'ai attaqué les audiobooks et le premier tome, il fait déjà 33 heures l'audiobook. Et pour te donner une idée, il me reste plus que 4-5 heures dessus.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, j'ai passé 30 heures à écouter un audiobook, donc forcément ça fait moins de temps pour les séries.
Oui, bah oui, sans blague.
Mais j'ai quand même eu le temps de commencer une nouvelle série. Alors je sais pas dans quoi je m'embarque parce que c'est une série qui est finie mais qui a beaucoup de saisons, je sais plus combien il y en a, au moins 6 je crois. Et d'habitude je fais pas ça, d'habitude je me lance pas dans des saisons qui sont dans des séries qui ont autant de saisons. Mais j'en avais beaucoup entendu parler, c'est de la science-fiction et à chaque fois que j'entends parler de science-fiction et des bons exemples relativement récents, j'entends parler de cette série qui est une adaptation de bouquin aussi, c'est The Expanse sur Prime. Donc j'ai regardé la saison 1. Enfin, je crois qu'il manque plus que le dernier épisode de la saison 1 où j'ai quasiment fini. Franchement, effectivement, c'est assez bluffant parce que c'est une série, donc le budget, c'est un budget de série et visuellement, c'est hyper impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Et je pense qu'en plus, ça va probablement progresser avec les saisons. Enfin, j'imagine. Mais là, déjà, c'est enfin parce que c'est de la science-fiction quand même relativement. Ça reste centré sur l'humanité. On n'est pas non plus, c'est pas, je sais pas, c'est pas, c'est pas Star Trek, mais du coup c'est un futur où l'humanité et enfin surtout le cadre en fait que j'ai aimé, l'humanité est séparée on va dire en trois catégories, enfin trois mondes on va dire. Il y a les Terriens qui sont restés sur Terre et c'est un peu on suit à travers l'ONU qui gère toute la Terre du coup maintenant et ils sont c'est plutôt la haute société on va dire. Enfin en tout cas pour l'instant on suit plutôt les dirigeants on va dire. Il y a les Martiens, donc une colonie de Terriens qui sont enfin d'humains qui sont sur Mars depuis un certain temps et en fait qui ont fait sécession. Donc maintenant ils sont complètement autonomes et ils ont leur propre culture, leur propre philosophie, on va dire, enfin que c'est très, ça a l'air totalitaire mais volontaire. Genre ils sont tous hyper à fond, assez militaires, mais genre on veut terraformer Mars, on va y arriver, on va faire une utopie. Ils sont tous dans leur truc. Et il y a les ceinturiens qui sont la classe ouvrière, on va dire, qui sont dans des stations spatiales ou des astéroïdes, enfin, mais qui sont du coup opprimés à la fois par les Martiens et les Terriens en fait, et ils sont voilà, ils vivent, ils vivent et ils meurent dans des stations spatiales, dans des conditions horribles, et du coup ça a même commencé à leur à affecter leur santé, ils commencent à changer un peu de physique aussi puisqu'ils sont toujours en apesanteur, donc ça les affecte aussi et ouais, enfin c'est un monde hyper riche avec plein de sous-textes sociaux et pour mener tout ça, il y a un mystère. Enfin, dès le début, il se passe un truc, on sait pas trop. Il y a un vaisseau qui a été attaqué et donc on est un peu avec les rescapés de cette attaque d'un côté, et puis d'un autre côté, on suit un inspecteur qui est un espèce de flic qui est sur une des qui est avec les ceinturiens qui mène l'enquête sur une disparition. Et bref, il y a plein d'intrigues comme ça qui vont se relier autour d'un mystère qu'on voit se dévoiler au fur et à mesure. Et non, franchement, c'est vachement bien, quoi. C'est assez prenant, assez sombre quand même. C'est pas très drôle. mais ouais, non, c'est rien que pour l'univers, en tout cas, c'est prenant. Après, ça demande à être concentré un petit peu. Et moi, du coup, là, j'avais un peu du mal. Il fallait vraiment que je me pose pour suivre la série. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de saisons et d'épisodes, là, j'ai fait une pause, là, clairement, pour voir autre chose. Donc, j'espère que j'aurai le courage de reprendre parce que j'ai envie quand même de continuer. Mais ça demande un petit peu de concentration pour suivre ce qui se passe, le contexte politique, tout ça. Mais ouais, je confirme que c'est de la bonne science-fiction. Donc, pour les amateurs du genre qui n'y sont jamais frottés, allez-y. Pour ceux qui ne sont pas du tout amateurs de science-fiction, c'est quand même assez aride. Il faut rentrer dedans quand même. Donc, pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mais les intrigues de fond sont quand même relativement accrocheuses, quoi. Donc, et les personnages sont cool. Donc,
ouais. Ok. Je suis pas très science-fiction, donc je vais sûrement pas regarder, mais bon courage pour les 5 saisons restantes.
Merci, je donnerai des nouvelles au fur et à mesure.
Oh, fais gaffe, hein, j'avais dit ça pour The Crown.
The Crown.
J'ai complètement oublié. En fait, là, je me suis remise, là, shame on me, je me suis remise dans mon plaisir coupable Gossip Girl qui est revenu sur la plateforme. Du coup, quand je suis en train de faire autre chose, là, en même temps que je suis en train de préparer mes cours pour la rentrée, tout ça, c'est Gossip Girl qui tourne en boucle. Thibaut en peut plus. Mais du coup, ce n'est pas The Crown. Voilà, mais il faut que je m'y remette.
Je sais pas si ça te fait ça aussi, mais moi, j'ai des périodes, quoi. Il y a une période où je regarde totalement. Que un truc ou que un genre de truc. Pendant quelques semaines, je peux pas regarder autre chose. Et puis, bah, ça me passe et je peux après revarier mon menu.
Je suis un peu pareil. Et là, en ce moment, c'est Gossip Girl. Il y a que le samedi où je mets Outlander et le vendredi où je mets la prochaine série dont je vais parler, mais alors très brièvement parce qu'il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis, l'été où je suis devenue jolie.
Mais oui, ça tu en
avais déjà parlé.
Oui.
Mais ouais, et là, c'est la saison 2. Et la saison 2 me plaît toujours autant. Alors, c'est vrai que je pense que je vais attendre la fin de la saison pour en parler, mais voilà, pour tous ceux qui ont vu la saison 1, alerte, la saison 2 est sortie, il y a eu 3 épisodes qui sont déjà sortis en une fois, et vu le début, heureusement, parce que je pense que si j'avais vu que l'épisode 1, j'aurais été déçue, et là voilà, à l'heure où laquelle on enregistre, demain sort l'épisode 4, et tous les vendredis, je pense, un épisode. Sinon, j'ai vu The Marvelous Mrs. Maisel, la dernière saison, qui est, là je sais plus combien maintenant.
Je suis en retard, moi je me suis arrêtée trois saisons, je crois que j'ai vu.
Là il y en a 5, c'est la 5e qui est sortie. donc qui est toujours sur, on en a déjà parlé, hein, je vais aller assez rapidement dessus, mais sur Myriam Maisel, qui est une de base une mère au foyer, qui quand elle s'est rendue compte, enfin quand son mari la quitte pour sa maîtresse, va faire un numéro de stand-up et va se rendre compte que en fait bah elle est douée pour ça et qu'elle aime ça, et elle va du coup essayer de démarrer une carrière dans le stand-up. C'est dans les années 50, je dirais, ouais c'est ça, 58, à New York, et en fait c'est mais à mourir de rire, enfin c'est hyper drôle, les personnages sont tous super. Moi j'ai un coup de cœur pour le mari quand même, qui je trouve évolue vraiment bien entre les saisons, et ça fait plaisir, enfin je trouve que il est pas dans le cliché. Bon, j'adore l'actrice Rachel Brosnahan qui va interpréter Lois Lane bientôt, et ça j'ai trop hâte.
C'était confirmé, je crois, hein.
Ouais c'est confirmé. Elle va être exceptionnelle, parce que là, elle était géniale en Mrs. Maisel, elle a un charisme de dingue, et beaucoup de classe, et elle est super. Mais c'est vrai que dans les premières saisons, son mari, on se dit, bah oui, qu'est-ce qu'elle faisait avec, elle a bien fait, enfin, heureusement qu'ils se sont séparés et tout, et en fait, il va quand même être présent tout le long des 5 saisons, et je trouve que son rôle évolue vraiment bien, et ça m'a... Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, c'est mon lapin qui court derrière moi, et sur le parquet, ça fait du bruit, c'est impossible à enlever au montage.
C'est pas grave.
Normalement, c'est bon. Non, mais... et voilà, donc c'était juste pour revenir sur ce rôle-là qui m'a particulièrement plu dans cette dernière saison. Mais voilà, cette série se conclut à la perfection. Elle a des notes excellentes partout. Vraiment, elle fait l'unanimité. Je ne peux que vous la conseiller. Il faut absolument, si vous ne l'avez pas vue, que vous la regardiez. Moi, elle m'a eu à New York, stand-up, années 50, mais c'est pas que ça. Les personnages sont super, les messages qu'elle porte sont super. J'ai beaucoup aimé cette dernière saison parce qu'on avait des flashbacks dans le futur et on revenait à maintenant. Enfin, donc on voyait un petit peu ce qui devenait par la suite. Enfin, c'était très intéressant. J'ai trouvé ça assez bien fait. Et c'est pareil, ça, comme mes premières fois, ça fait partie vraiment de mes séries coup de cœur. De ces dernières années, je suis très très contente de l'avoir découverte et d'avoir suivi depuis la saison 1 durant ces 5-6 dernières années, et regardez-la, c'est un ordre.
Faut que je reprenne, parce que j'avais vraiment aimé, mais du coup voilà, j'ai en plus j'avais commencé à le regarder à l'époque où j'avais pas accès à ton compte Prime. Et mais du coup ouais, faut que je reprenne.
Ouais non, mais c'est vrai qu'on peut vite en fait, comme les saisons mettent du temps aussi à sortir, moi je sais que la saison, et puis qu'après c'est un épisode par semaine, souvent j'attendais un peu qu'ils soient tous sortis pour me remettre dedans, pour regarder un ou deux épisodes de la saison d'avant, pour me rappeler d'où ça venait, et c'est facile de lâcher, entre guillemets, vu le rythme de sortie. Là, maintenant que tout est sorti, c'est bon.
Tout à fait.
L'autre série que j'ai vue sur Prime, il s'agit de With Love. Je sais pas si t'en as entendu parler.
Je crois, mais je suis pas sûre. Faut que je regarde ce que c'est, mais...
Je sais pas pourquoi cette série me parlait pas, alors que ça a l'air de parler d'amour.
je me demande ce qui t'a mis sur la piste.
Mais je sais pas, ça me tentait pas trop. Et en fait, j'ai commencé à la regarder avant que Gossip Girl n'arrive. Et je n'avais plus rien à regarder nulle part. Et bon, c'est, oui, une comédie romantique, dramatique. Enfin, romantique. En fait, on suit Lily, une américaine avec des origines mexicaines, et toute sa famille. Et donc, en fait, c'est ça l'intérêt vraiment, je trouve, de cette série. C'est vraiment que on a une famille qui est géniale. Sa famille, elle est top. On suit donc son frère Jorge, j'arrive même pas à prononcer.
Jorge.
Ouais, Jorge version mexicain.
C'est ça.
Donc son frère jumeau, son cousin, sa cousine, enfin qui est non-binaire, d'autres de ses cousines, ses tantes, ses grands-parents, enfin vraiment c'est une très grande famille, ses parents, etc. Et ils sont tous hyper attachants. Et en fait, moi j'ai pas été du tout captivée, parce que elle a une histoire d'amour hein, qu'on suit, hein, tu vois. J'ai pas été captivée du tout par cette histoire d'amour-là, mais vraiment par tous les personnages autour. Et il y a une scène que je voulais juste mentionner, parce que c'est vraiment la scène qui m'a fait accrocher vraiment à la série. C'est donc sa cousine qui est non-binaire, qui est en couple, et son copain dit à un moment donné qu'il ne fait pas partie de la communauté queer LGBTQIA+. Et en fait, elle se braque tout de suite et elle va en parler à ses amis. Et en fait, ses amis vont avoir toute une discussion avec le mec pour lui expliquer en quoi dire ça, c'est blessant. Et que ce n'est pas à prendre en compte que la personne est non-binaire, mais juste la voir... parce que c'est c'est une femme transsexuelle, et c'est joué par une actrice transsexuelle également. Et du coup, lui, dans sa tête, c'est juste... c'est une femme, je la considère comme une femme, donc voilà. Mais en fait, non. Pour elle, c'est pas le cas. Et en fait, toute cette discussion, j'ai trouvé ça tellement bien amené, tellement bien expliqué, sans être moralisateur et tout, que ça m'a vraiment fait accrocher à la série, parce que c'est pas l'intrigue principale du tout, mais c'est là, c'est bien amené, sans faire forcément de la pédagogie, tu vois, c'est pas le but non plus, mais j'ai trouvé ça top, et c'est une série, ouais, vraiment, que j'ai bien aimée. C'est sur 2 saisons, je me demande s'il va pas y avoir une troisième, j'ai un doute, mais en tout cas là il y en a 2, et j'ai passé un très bon moment devant. Et je spoil un petit peu parce que c'est aussi un point fort pour moi. En fait, toute cette histoire d'amour qu'on suit, elle va pas forcément se terminer bien. Et en fait, ça montre aussi que les histoires d'amour telles qu'on les idéalise, parce qu'elle a vraiment ce côté, Lily, très fleur bleue, très je veux de la magie dans mon couple et tout. Et en fait, elle va peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre et se rendre compte qu'en fait... les histoires d'amour, on les idéalise pas forcément toujours bien. Enfin, c'est peut-être pas la personne qu'on... Voilà, et en fait, pour tout ça, j'ai bien aimé cette série. C'est pas la série de l'année ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, et j'étais très surprise, et agréablement, parce que je m'attendais pas à ça.
Cool.
Et la dernière série que j'ai regardée, oui, vous aurez remarqué que j'ai regardé beaucoup de choses. Je n'ai toujours pas fini, mais je vais du coup donner mes premiers avis. C'est sur aucune plateforme. Je regarde de manière... Alors... illégal, oui ou non, parce que dès que tu tapes le nom, t'as 50 sites qui te le proposent. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas très réglementé, c'est un animé. Et j'ai l'impression que les animés, à part s'ils sont effectivement sur Netflix ou sur Crunchyroll, c'est un peu open source, quoi. C'est enfin, je pense pas que ce soit légal, mais voilà. Il s'agit de Full Metal Alchemist Brotherhood, donc FMB, aussi appelé. Et alors, le FMA est sur... je vais expliquer. Est sur Netflix. En fait, c'est un manga de base, et en gros, ils ont fait une première adaptation qui est sur Netflix, et en fait, cette première adaptation, le manga n'était pas terminé, donc ils ont dû faire une fin comme ils le sentaient, quoi. Et ensuite, une fois que le manga s'est terminé, ils ont fait Full Metal Alchemist Brotherhood, donc FMB, qui est beaucoup plus proche du manga, parce qu'ils ont juste suivi le manga. Ouais. Et lui, il n'y est pas sur Netflix, malheureusement. Et en fait, Thibaut m'a conseillé de regarder le B, du coup.
Mais je crois que c'est un peu le... Enfin... En tout cas, pour ceux qui ont lu le manga, j'ai toujours entendu parler que conseillait plutôt Brotherhood, du coup.
Ouais.
Je crois que j'avais commencé, mais je pense que c'est Brotherhood que j'ai commencé, mais je me souviens plus. Mais je me souviens de l'histoire, en tout cas. Je me souviens des premiers épisodes, mais...
En fait, l'histoire, donc, pour faire un résumé très bref, donc c'est un animé, hein, encore une fois, c'est deux frères qui, après le décès de leur maman, ont essayé, alors c'est deux frères qui sont alchimistes, donc qui sont capables de faire un peu de la magie, et qui, après le décès de leur maman, vont essayer de la faire ressusciter, et ça va très mal se passer. Il y a un premier frère, son corps va disparaître, et donc son âme va se retrouver transmutée dans une armure, donc une armure vide, mais son âme à l'intérieur. Et le deuxième frère va perdre son bras et sa jambe, et donc il va avoir un automail, des robots à la place. Et ils vont se retrouver alchimistes d'État, donc en fait ils vont se retrouver, c'est des alchimistes au service de l'armée, et leur objectif ça va être de retrouver leur corps, en cherchant la pierre philosophale, voilà. En gros, c'est l'histoire de base, c'est ça. Et en fait, j'ai été très surprise parce que j'ai énormément accroché. Je trouve que l'histoire est très mature, ça parle vraiment de sujets assez profonds, du deuil, etc. Et aussi beaucoup de l'armée et de... On comprend au fur et à mesure qu'il y a eu des choses qui se sont passées avec l'armée, des génocides, des choses pas très claires, ouais. C'est assez politique. D'ailleurs, le chef de l'armée s'appelle le Führer, hein, donc voilà. Et en fait, il y a beaucoup cette question de la responsabilité des soldats, mais aussi des généraux qui étaient sous les ordres du Führer. Enfin, c'est vraiment sympa, je trouve, pour un animé. Et ça m'a beaucoup surprise. Et il n'y a aucun personnage tout blanc ou tout noir. Il n'y a vraiment pas de grands méchants. Enfin, chacun, tu peux leur trouver des explications. Chacun a une histoire. Et j'y trouve, pour l'instant, j'en suis qu'à la moitié, j'accroche vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un des... Je ne suis pas très fan d'anime. Moi, je lis beaucoup, beaucoup de mangas. Mais j'ai beaucoup plus de mal en adaptation animée. Et là, c'est vraiment un de mes préférés, quoi. J'accroche vraiment bien.
Ah, j'en ai un bon souvenir, je sais pas pourquoi j'avais pas continué, mais bon, je pense que, pourtant c'est pas si long, enfin il y a quand même pas mal de
60 et quelques épisodes. Hein.
Ouais, c'est l'équivalent de ouais. Mais enfin j'en avais un bon souvenir, pareil le ton, ça m'avait bien accroché, les personnages ils sont quand même assez hyper intéressants, donc Donc ouais, il faudrait peut-être qu'un jour je vais m'y remettre, mais pareil, j'ai pas trop le réflexe animé, tout ça.
Ouais, bah c'est ça. Puis maintenant qu'on a les plateformes, regarder en streaming, c'est aussi... Enfin, c'est un, entre guillemets un effort supplémentaire.
Ouais, quand j'avais juste un PC, peu importe. Oui. Hein, mais maintenant que... Tu vois, même genre, quand je suis pas chez moi, que j'ai pas ma télé, j'ai du mal à regarder des trucs. Parce que je me dis, ça, je préfère regarder sur ma télé.
C'est normal. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour. C'était un très long épisode hein, ce mois-ci. Mais après c'était un mois et demi.
Voilà, c'est un mois et demi. Et puis mine de rien, déjà en film on a vu pas mal. Puis en série, t'en as vu pas mal. Donc,
ouais, je me suis pas rendu compte, mais en fait, c'est pas mal.
Donc il y a du choix pour ceux qui ont des choses à rattraper. Vous avez de quoi faire avec l'été. Je sais pas si c'est le moment où on regarde le plus de choses, mais ça dépend si vous avez l'occasion de voyager ou si vous êtes coincé par la canicule à rester à l'intérieur. Oui, du coup vous avez des choses à regarder. Courage à ceux qui sont dans le sud, on pense à vous.
Ouais. Bon, bien écoutez, on se dit à bientôt et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta ou sur Discord pour partager vos découvertes.
À bientôt.